Bonjour et bienvenue sur Anthropo Games. Avant de vous expliquer le principe de l'émission et de vous dire de quoi on va parler, laissez-moi vous présenter mes deux compagnons pour cette session. La première est anthropologue, elle aime se perdre dans la forêt amazonienne et discuter avec des jaguars. Elle est cofondatrice d'Anthropodcast et elle tient les rênes d'Anthropo Quiz. Salut Anne-Laure.
Et salut!
Tu auras la lourde tâche de t'assurer qu'on ne raconte pas de bêtises et de nous résumer des livres de 600 pages en à peu près 3 minutes. Je te fais entièrement confiance. Puisqu'on parle de jeux vidéo, mon deuxième compagnon est Mister Nose. Il teste des jeux indés et gratuits sur sa chaîne YouTube et sera là pour expliquer certains concepts à ceux qui ne connaissent rien au gaming. Salut, Mister Nose.
Et bonjour les gens.
Quant à moi, je serai le joyeux animateur. Je m'appelle Jonathan, podcasteur sur VoyageCast depuis 3 ans et cofondateur d'Anthropodcast, joueur à mes heures perdues et amateur d'anthropologie. Les plus perspicaces d'entre vous auront déjà deviné de quoi nous allons parler. Une anthropologue, un joueur, il semblerait logique que nous parlions d'anthropologie dans les jeux vidéo, non ? Gagné. Mais en fait, c'est quoi l'anthropologie ? Ça sert à quoi ? Quel rapport avec les jeux vidéo ? Patience. Nous allons répondre à ces questions et à d'autres dans ce premier épisode d'Anthropo Games. Si tu es un gamer, je pense qu'on aura de quoi t'intéresser. Derrière le monde d'Azeroth, celui de Tamriel ou de Coruscant, il y a une foule de choses que tu n'as pas remarquées. Parce que oui, entre tes frags, tes raids et ton PVP, il y a une création de monde incroyable qui mêle légendes, mythes, économies, systèmes sociaux et politiques, et je vais te dire un secret, c'est passionnant. Laisse-nous t'emmener derrière le miroir pour contempler les mécaniques de jeu que tu ne soupçonnes même pas. Tu verras que tu n'en apprendras pas que sur les jeux vidéo, mais aussi sur le monde qui t'entoure, je veux dire le vrai monde, celui où tu dois payer tes factures. Si tu es un anthropologue ou un amateur en sciences sociales, je pense qu'il y aura de quoi t'intéresser. Ce que tu vois peut-être comme un passe-temps un peu stupide pour geek solitaire mérite ton attention. Les papous, les nambiquaras et les dovaillos, c'est rigolo un moment. Mais pendant que certains étudiaient des communautés, d'autres ont construit des univers. Tu ne comprends pas pourquoi c'est un sujet intéressant et de toute façon tu es perdu dès qu'on cause en langage gaming ? Ça tombe bien, on va tout expliquer, on est là pour ça. Tu verras que c'est un champ d'études incroyablement riche et, peut-être, y trouveras-tu ton prochain sujet d'étude. On va rentrer dans le vif du sujet assez vite, mais laissez-moi teaser les prochains épisodes pour que vous voyez un peu dans quelle direction on va aller. Dans ce premier épisode, on va réviser les bases, c'est quoi l'anthropologie, ça sert à quoi, etc. On finira l'épisode en parlant de Star Wars The Old Republic, qui cache beaucoup d'anthropologie derrière ses combats au sabre laser. J'en profite juste pour signaler que nous sommes en vidéo sur YouTube, nous jouerons en vous parlant avec un jeu en rapport avec nos thématiques, en l'occurrence ce sera SWTOR pour cette session. Dans le prochain, nous parlerons de World of Warcraft. De nombreuses études très sérieuses et passionnantes ont été faites sur le monde d'Azeroth. Il faudra plus d'un épisode pour en faire le tour. Dans le troisième épisode, on vous parlera d'économie. Sujet plutôt chiant dans la réalité, quoique indispensable, mais qui devient vite absolument indispensable en jeu. On partira sur du World of Warcraft, Space Origin, Elite Dangerous, etc. EVE Online aussi, bien entendu. Pour le quatrième épisode, nous irons explorer le monde des chamans, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la réalité, histoire de voir si la représentation qu'on en a est fidèle à la réalité. Ou non. D'ailleurs, vous savez d'où viennent les chamans, vous ? Moi, j'en sais rien, mais du coup, on attendra le quatrième épisode pour vous répondre. Et puis, si tout va bien, il se pourrait qu'on explore les catastrophes et la fin du monde, vers novembre, histoire de suivre la sortie d'un certain jeu que les gamers ont déjà connu bien sûr. Dernière chose avant de commencer, si vous avez des questions sur les sujets qu'on a abordés ou qu'on n'a pas été assez clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur YouTube, sur Twitter via @anthropodcast ou par mail à contact@anthropodcast.fr. Bon, j'ai assez parlé, on va gentiment lancer la vidéo d'intro de SWTOR parce que je la trouve absolument magnifique et puis on va commencer dans le vif du sujet avec les premières questions. Alors voilà, vous nous rejoignez sur le jeu, on est en train de suivre Madame Anne-Laure qui est en train de nous emmener en Temple Jedi peut-être, mais c'est pas vraiment le sujet du podcast. Tout d'abord, on doit savoir qu'est-ce que c'est l'anthropologie, parce qu'on vous a dit qu'on ferait un petit peu de l'anthropologie des jeux vidéo, mais c'est quoi exactement l'anthropologie ? Alors est-ce que t'as une réponse, Anne-Laure, simple et concise, qui prend pas 300 pages à lire ?
Bah simple, l'anthropologie c'est une science sociale, hein. Donc qui étudie l'homme en société. Donc c'est un peu comme de la socio, mais en pas pareil. Pour beaucoup, c'est un truc qui étudie les tribus qui habitent à l'autre bout du monde, machin. Mais c'est un peu plus... pas compliqué que ça, mais un peu plus vaste. Je sais pas où je vais, par contre. Mais c'est
là,
sympa.
tu vas dans le mauvais chemin. Oui, je joue avec des joueurs qui ne savent pas utiliser leur map. Donc... Mais c'est pas grave.
Donc,
tu utilises plein de mots. Mais tu dis par exemple science sociale. C'est quoi
science
une
sociale.
Science sociale et c'est comparé. Ça veut dire qu'il y a d'autres types de sciences, du coup, j'imagine.
Bah, t'as les sciences genre la biologie, tous ces trucs-là. Les sciences sociales, c'est les sciences qui étudient l'être humain en société. Donc, t'as par exemple la psycho. Je pense pas qu'on appelle ça une science sociale. Mais je vais peut-être dire une bêtise. Mais la psychologie, ça va étudier l'individu. L'anthropologie, ça étudie ce que les gens ils font quand ils sont ensemble. Un mec tout seul, ça intéresse pas l'anthropologue. Après, quand ils sont plusieurs, ça commence à l'intéresser.
T'appelles quoi plusieurs? Genre Mister Nose et moi, tu peux faire une anthropologie de nous deux, vu qu'on est deux ou...
Ouais, on peut commencer à partir de deux. Après, ouais, ça dépend des intérêts de l'anthropologue. Il y en a que ça peut intéresser, d'autres pas. Mais concrètement, oui, à partir du moment où il y a plusieurs personnes, il se passe des choses. Parce que dès que t'as des individus qui sont ensemble... Eh ben, instinctivement, on crée du social, on crée de la culture, parce que pour vivre ensemble, ben, faut instituer des règles, il y a des comportements qui se font, et ben, tout ça, c'est ce que l'anthropologie étudie pour comprendre les étranges êtres que nous sommes et comment ça fonctionne.
Okay. Je crois que j'avais lu que la plus petite société étudiée, je ne sais plus si c'était autour de Pitcairn, ou je ne sais plus où ils étaient, 17, je crois.
C'est où ça, Pitcairn?
Pitcairn, c'est en plein milieu de la mer. Jared Diamond en parle dans son bouquin. Mais là, on est déjà en train de citer des noms et tout. Les auditeurs savent pas forcément de quoi on parle. ok, mais alors, c'est un petit peu intéressant ce que tu dis, mais il y a Paul Jorion, je sais pas si tu connais, qui est à Paris, qui est anthropologue spécialisé en économie, qui lui, il a une définition hyper large de l'anthropologie aussi, un petit peu comme toi. Il dit que finalement, l'anthropologue, c'est en partie... quelqu'un qui pose des questions que personne n'ose poser. C'est-à-dire, il essaye de savoir comment ça marche et il ose poser les questions. Par exemple, lui, il parle beaucoup de l'économie, tu vois, et il va te dire, oui, l'économie, tout le monde se dit comment est-ce que ça marche, etc. Et finalement, on se dit, bon, ça doit fonctionner. En l'occurrence, ces temps-ci, avec ce qui se passe avec la Grèce et tout, avec l'Europe, visiblement, il n'y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe.
Ouais.
Mais l'anthropologue, pour lui, ça va être le gars, justement, qui va aller trouver... ça peut être autant des banquiers, ça peut être, je sais pas, des politiciens, etc., pour leur demander comment ça marche vraiment, quelles décisions ils prennent et pourquoi.
Voilà, ce qui intéresse l'anthropologue, c'est pas tant de répondre à la question pourquoi, mais vraiment comment, quoi. Donc, comment on fait à peu près tout, quoi. Donc, comment on fait l'économie, comment on fait la politique, comment on fait le social, comment on fait les jeux vidéo, comment on vit les choses, quoi. Et comment ça s'articule.
Ok. Mais du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment l'anthropologue travaille, disons? Parce que là, bon, comme tu as dit, on imagine toujours un petit peu, je sais pas, si vous tapez Malinowski sur Google, vous allez trouver des photos de lui qui est blanc, habillé en habits colonial, voilà, assis au milieu de peuplades éloignées, on va dire, qui est un petit peu l'image qu'on a tous de l'anthropologie, voilà. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, tu nous as dit, c'est pas vraiment le cas. Mais du coup, comment il fonctionne? Je ne sais pas, est-ce que Anne-Laure va aller dans une banque et va se poser à un endroit puis regarder ce qui se passe? Comment ça se passe exactement?
Bah alors, ça a évolué. Après, on a gardé certaines bases. Maintenant, c'est plus... Voilà, on n'est plus cette espèce de colon qui vient voir des sauvages, quoi. On a évolué dans les concepts. Ce qui est resté, c'est qu'il y a cette notion d'observation qui est importante, mais pas seulement. Donc, il faut participer. Bon, ça, voilà, c'est Malinowski, l'observation participante. Mais après, en fonction de ton objet de recherche, en fait, ça va être différent. Mais ce qui est important pour l'anthropologue, c'est vraiment le terrain. C'est-à-dire, il faut qu'il s'immerge dans ce qu'il veut étudier, quoi. Il peut pas juste se contenter de regarder ça de loin ou de faire des statistiques ou quoi. Que ce soit, si c'est une banque, cette banque, tu vas y aller pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. Ça dépend ce que t'étudies et tout ça, quoi. Mais il y a vraiment cette notion de... C'est long, quoi. Faire de l'anthropologie, c'est long, parce que le but, c'est de passer au-delà des apparences et des premiers discours qu'on va te servir. Parce que tu vas poser une question, voilà, tu vas aller voir ton banquier, tu vas lui poser 2-3 questions, il va te servir le discours du banquier qui sait qu'il doit servir au public. Et petit à petit, à force de le connaître, de le fréquenter, de voir un peu comment ça marche, tu vas voir les discours qui évoluent. Tu vas voir des comportements qui sont contraires à ce qui a été dit. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant, quoi.
Ok, tu parlais de but. Alors, c'est assez intéressant. Parce que tu dis oui, c'est pour comprendre, mais ça sert à quoi en fait?
De
Enfin,
comprendre.
pourquoi il y a des mecs qui ont commencé à faire de l'anthropologie en fait? C'est juste des mecs qui se posaient des questions, il y avait un but derrière. Comment
Bah,
ça se passait?
je pense que, comme on a pu le voir un peu à Paris en rencontrant pas mal d'anthropologues, ça part pas mal de la philosophie à la base, mais c'est plus concret. Parce que la philosophie, voilà, ça essaye de, ça se pose des questions sur pas mal de concepts, etc. Mais c'est pas ancré dans la réalité comme l'est l'anthropologie. Donc l'anthropologie, c'est un peu ce, ok, on se pose des questions sur des trucs un peu abstraits, tout le monde se fout, mais on va voir vraiment comment ça se passe sur le terrain, quoi. Donc après, les buts de l'anthropologie, du coup, bah, pourquoi comprendre? Parce que bah, c'est comme tout, pourquoi faire de la biologie? Pourquoi comprendre comment fonctionne le corps humain? Parce que quand tu le comprends, bah, tu peux mieux l'apprivoiser, tu peux en faire... Enfin, c'est mieux. Tu vois, en comprenant les mécaniques du monde social, du coup, on peut...
Mieux s'adapter, non?
Bah oui, on s'adapte mieux et puis on voit comment on n'est pas dans un... On dépasse cette idée que ah bah, les choses elles sont comme ça et elles se font d'elles-mêmes et on comprend que non, elles se font pas d'elles-mêmes, qu'il y a vraiment des processus engagés derrière et que du coup on peut les utiliser consciemment quoi. Comme par exemple tout ce qui est tradition, etc. On a l'idée que la tradition c'est quelque chose d'immémorial qui s'impose de soi, etc. Mais il y a tout un travail qui est fait pour garder ou pas des traditions, etc. au niveau politique, au niveau culturel. Et quand tu prends conscience de ça, bah
Est-ce que
tu... Dis-moi.
ce serait pas une espèce de prévention contre les préjugés, le fait d'étudier toutes ces cultures et comment elles fonctionnent?
Bah ça clairement ouais. Alors à la base l'anthropologie bah c'était un peu du côté des colons donc c'était très racialiste. On était à dire bon alors eux c'est des sauvages, c'est des barbares et puis nous on est les grands civilisés. Mais du coup à partir de cette base un peu noire quoi, on a réussi justement à complètement casser toutes les théories racialistes, c'est-à-dire non, en fait, les races, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de question de ils sont meilleurs qu'eux, de machin, il y a juste plein de chemins différents, toutes les sociétés humaines suivent des chemins différents, il n'y a pas un chemin vers lequel on évolue tous, et du coup, plus tu fais de l'anthropologie, et plus tu te rends compte que finalement, ouais, voilà, il n'y a pas à juger une société ou une autre, ou certains faits sociaux, même si des fois, ça peut paraître totalement absurde, mais c'est simplement parce qu'on n'est pas dedans et qu'on n'a pas la conscience de d'où ça vient et dans quoi ça s'ancre, le contexte, les enjeux, les interactions qu'il y a, et en fait tout s'explique quoi.
Ouais, mais enfin, ça a l'air un petit peu innocent comme ça, mais moi je me dis, tu vois, pour ceux qui ont été regarder Le Dernier La Planète des Singes, on en avait parlé sur Anthropodcast, il y a une phrase qui ne vient pas de La Planète des Singes, je ne me rappelle plus qui c'est très célèbre qui l'a dit, qui dit la connaissance, c'est le pouvoir.
Ouais.
Et du coup, je me dis, un anthropologue, tu vois, une fois qu'il a capté comment le système financier fonctionne au niveau humain, tu vois, pas forcément au niveau économique, ou une fois que le mec, il a compris comment un groupe de personnes agit,
Ouais.
ça lui donne quand même aussi du pouvoir, tu vois, pour faire un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu pour manipuler. Après, j'imagine que ça, je sais pas, est-ce que on est sur Star Wars, on peut s'amuser à le dire. Est-ce qu'il y a un petit peu un côté sombre de l'anthropologie, tu vois, ou
Bah je
parce
sais
que
que par exemple, il
je
y
sais
a
pas.
certaines armées, l'armée américaine par exemple, qui emploient des anthropologues pour pouvoir connaître un peu les gens chez qui ils vont foutre la merde. Et savoir comment ça fonctionne pour pouvoir mieux les déstabiliser, etc., quoi. Donc il y a certainement des anthropologues qui utilisent leurs connaissances pour des pratiques qui sont pas peut-être moralement très justes, tout comme il y a des psychologues qui ont fourni leurs travaux pour qu'on fasse des publicités qui rentrent bien dans la tête et qui manipulent les gens en masse, quoi. C'est sûr que de toute façon, la connaissance, après, t'en fais ce que tu veux, mais l'anthropologie, c'est quand même super vaste, et la plupart du temps, on s'en fiche un peu hein, de ce qu'ils disent les anthropologues. Après, c'est sûr que celui qui va étudier la politique dans les grandes instances internationales, ou l'armée, ou ce genre de choses, forcément, ça intéresse ceux qui sont au pouvoir, quoi. Mais l'anthropologue lui-même, j'ai pas eu vent d'histoire, genre d'un anthropologue qui a lancé... Après, je pense qu'il y a eu des trucs, peut-être dans des sociétés où l'anthropologue a étudié, il y a peut-être des anthropologues qui ont usé un peu de leurs connaissances.
Ouais, justement,
Ça, c'est au niveau humain, quoi.
ouais, c'est ça. Pour prendre un exemple simple, tu parlais de l'armée américaine. C'est vrai qu'une des tactiques de l'armée américaine, ça a toujours été de couper la tête, hein, c'est-à-dire de. Et a priori, quand tu arrives dans une société que tu connais pas, Tu sais pas vraiment, alors à qui couper la tête, tu vois, est-ce que c'est au curé du village, entre guillemets, hein, pas que j'ai quelque chose spécialement contre les
Contre les
curés,
curés.
mais ça, je sais pas où c'est, est-ce que tu vas couper le sorcier, est-ce que tu vas couper le système économique, est-ce que c'est aux femmes que tu dois t'attaquer, est-ce que c'est aux hommes, etc. Est-ce que le chef du village est vraiment, a vraiment une importance ou alors
C'est
pas du
ça, ou
tout?
est-ce qu'il est interchangeable comme dans
Ou
beaucoup de
est-ce...
sociétés?
Voilà, par exemple, donc j'imagine qu'à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Mais il me semble qu'il ne faut pas perdre de vue, à mon avis, que tu l'as dit dans sciences sociales finalement, mais ça reste une science quand même. Et entre guillemets, ce que tu fais avec la science ne regarde pas nécessairement le scientifique, tu vois. Après, c'est bon, c'est un point de vue éthique,
C'est
etc.
ça.
Mais voilà, tu as inventé la bombe atomique. Bon, a priori, c'est pas toi qui
C'est ça.
l'utilises et c'était pas forcément fait pour être utilisé, quoi.
Bah, tu vois que les vieilles théories évolutionnistes, donc avec cette idée de y a les sauvages, les barbares, la civilisation, que l'anthropologie utilise plus depuis bien longtemps, ou alors ils sont plus beaucoup et Voilà. Bah c'est tu l'entends encore dans des discours politiques, par exemple, des fois. Ça ressort, tu vois, ou dans des pratiques, etc. C'est quelque chose qui est encore efficient, alors que pour la discipline, c'est aboli depuis longtemps. Donc tu vois qu'il y a des usages qui sont faits, et même à retardement, qui peuvent être pas cool, quoi.
Ouais, d'ailleurs, le point de Mister Nose était intéressant, je trouve, justement, et que tu as souligné après, c'est à partir du moment où tu connais les gens et tout ça, ça aplanit aussi les différences, parce que souvent, ce qui irrite, et pour prendre très simplement, hein, sans prendre position politiquement de ce qui se passe par rapport aux musulmans en France encore, on est le 11 juillet, il y a une sortie assez exceptionnelle qui a été faite par une politicienne hier, je crois, sur les musulmans, et on se rend... Alors après, c'est encore une fois, c'est pas question de juger. Mais a priori, si on connaît un petit peu mieux, on voit aussi où éventuellement il y a des dangers, mais suffit qu'il n'y a pas tant de différence que ça, finalement, quoi.
Non, finalement, on est tous des êtres humains. C'est ça c'est un peu le slogan de l'anthropologie, c'est université des cultures pour unité de l'homme. On est tous des hommes, mais après, en fonction des contextes, dans l'espace, dans le temps, et ben, micro et macroscopique, et ben, ça prend différentes formes, quoi. L'humanité prend différentes expressions, mais ça reste l'humanité.
On parle d'anthropologie depuis le début, là, mais on a aussi un terme qu'on connaît bien qui s'appelle l'ethnologie ou l'ethnographie, des fois, sans partir dans des théories hyper longues, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec l'anthropologie ou est-ce que c'est la même chose?
Alors c'est plus ou moins la même chose. Disons que bah déjà l'ethnologie c'est pas un terme qu'on utilise partout. En France on l'utilise, mais dans la plupart, genre chez les anglo-saxons, etc., il y a que l'anthropologie. C'est Lévi-Strauss qui faisait cette distinction. En fait, pour lui, il avait théorisé qu'il y avait plusieurs stades en fait dans la recherche anthropologique. Le premier stade, c'est l'ethnographie. Donc l'ethnographie, c'est le moment où le chercheur, il va sur son terrain où que ce soit, hein, que ce soit en bas de chez lui ou à l'autre bout du monde, et où il récupère des données. Donc il récupère des données par son observation, par les entretiens qu'il va avoir avec les gens, par tout ce qui se passe sur le terrain et qu'il va noter dans son petit carnet. Après l'ethnographie, du coup, bah c'est le moment où le chercheur il repart du terrain, parce que c'est très important pour pour l'anthropologue d'avoir ce recul. Faut aller sur le terrain, mais il faut aussi s'en extraire pour pouvoir bien appréhender les choses, parce que quand on est dedans, on est. Enfin voilà quoi. Donc ça, c'est de l'ethnologie, c'est une fois que t'es rentré chez toi, tu récupères, tu reprends toutes tes données et t'analyses tout ce que t'as eu. Et après, l'anthropologie, ça serait la mise en perspective de différentes ethnologies. Par exemple, tu as fait un terrain en Afrique de l'Ouest et un en Amazonie orientale, et ben tu vas comparer les données que tu as eues sur, enfin les analyses ethnologiques que tu as eues sur les deux terrains, et du coup tu fais de l'anthropologie parce que cette fois t'es pas dans un truc particulier, tu t'essayes de monter les échelles en fait, de voir au niveau humain qu'est-ce qui est ressemblant ou différent entre ces choses-là, quoi. Donc l'anthropologie, c'est vraiment le niveau le plus vaste, en fait, et de ces trois étapes.
Est-ce que c'est pour ça aussi que des fois on a ces titres très marrants qui ceux qui sont pas anthropologues ou qui connaissent pas du tout ça les fait un petit peu rire où on a comparaison du petit village français avec un village dans le Sahara et puis on nous dit voilà ça c'est de l'anthropologie aussi c'est ça? Ok, ouais, donc comme tu disais, un petit peu pour comparer les cultures aussi, mais
Après, il faut que ça soit sur des thèmes particuliers. Tu dis pas, tu compares pas juste pour comparer, mais ça va être, par exemple, comparer, voilà, le système économique d'une société de je sais pas où avec une de je sais pas où, ou comparer la relation à la mort dans telle société et dans telle société. Enfin, faut qu'il y ait un truc qui lie, quoi. C'est pas juste comparer pour comparer, sinon tu pars dans n'importe quoi.
Si je peux me permettre, est-ce que en fait l'anthropologie c'est pas tout bêtement une espèce de quête des origines dans toutes les différences, toutes les variétés de l'être humain, dans ce qui les différencie et ce qui les rapproche?
Alors, des origines peut-être pas, de l'essence peut-être plutôt, mais
Ah, peut-être,
ça
oui.
se rejoint. Mais alors, ce qui est un peu compliqué avec l'être humain, c'est que au début, on pensait justement toutes les sociétés, les cultures comme un truc un peu figé, genre une fois que t'en as étudié une, c'est bon, tu la connais, c'est fait, on passe à la suivante. Et bon, bah maintenant, on a bien compris que tout est en perpétuel changement. Donc même tu vas quelque part sur un terrain, tu y reviens 2 ans ou 10 ans après, ça n'a plus rien à voir. Donc du coup, il y a au niveau des formes de la culture, on peut pas avoir un truc exhaustif. Mais voilà, après, c'est un peu comme des supports qui vont servir à mieux comprendre, voilà, l'humain dans ce qu'il est, au-delà de toutes ces expressions diverses. Donc dans ce sens-là, ouais, on peut dire que ça nous rapproche un peu de notre essence. Qu'est-ce qu'on a tous en commun, quoi. Et après, il y a pas tant de choses que ça qu'on a tous en commun. Parce que même des choses qu'on croit qu'on a tous, par exemple au niveau des émotions ou quoi, on dit ouais, mais on connaît tous la peur, on connaît tout ci, on connaît tout ça, bah non, il y a des sociétés où connaissent pas, c'est pas exprimé, quoi. Donc
D'accord,
on a
voit des
encore du
degrés
long chemin à
différents.
faire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment complexe, quoi. Même des trucs qu'on disait pendant longtemps, la prohibition de l'inceste, c'est un truc de base des sociétés humaines, mais même à ce niveau-là, enfin voilà, l'inceste, c'est relatif pour certains, et du coup on peut pas vraiment dire. Enfin, il y a très peu d'universaux, quoi. Il y a très peu d'universaux humains, mais si ce n'est qu'on est des êtres de culture, c'est-à-dire on crée tous de la culture pour survivre, et sans ce lien social qu'on crée entre nous et ces règles qu'on établit, toutes ces rites, etc., ben on survit pas, quoi. On se pète tous la gueule.
D'accord,
Mais
on deviendrait fou en fait sans si on n'avait pas un minimum de repères, c'est ça l'idée quoi.
c'est ça, et c'est instinctif. C'est-à-dire que là, tu prends, je sais pas, tu prends 40 personnes qui parlent même pas la même langue, qui viennent pas du tout des mêmes univers, etc. Tu les mets dans un coin perdu, je sais pas, où il y a rien, tu vois, en mode île déserte. Et ben, il y a de la culture qui va se créer. Ils vont se créer leur code, ils vont tout. Enfin, ça se fait instinctivement. C'est un moyen de survie. On est des animaux sociaux, donc sans ça, en fait, on survit pas. On a besoin d'être ensemble pour survivre, et pour ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, que c'est cognitivement inscrit dans nos gènes, quoi.
Gêne.
Ouais.
Ce que je trouve intéressant en lisant l'anthropologie pour poursuivre un petit peu dans ce que vous dites, c'est que il y a quand même des sociétés qui à nous paraissent un petit peu primitifs, tu vois, dans le sens où ben, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas forcément
Il y en
d'armes à
a de moins
feu,
en
ou
moins.
je sais pas. Oui, non, mais on va dire dans.
Ouais,
Ah,
dans
c'est
l'idée.
moins vrai maintenant, si tu veux, mais dans l'idée, tu vois, les premiers explorateurs, on rappelle quand même que même Darwin, par exemple, hein, quand je me rappelle plus où c'était, il a vu des hommes qui décrit un petit peu comme des animaux, et pour lui, c'était tout à fait logique que ce soit un stade, oui, primitif de l'être humain,
Primitif,
finalement, tu vois.
ouais.
Bon, voilà, il a dit beaucoup de choses intelligentes, mais ça, c'était pas la plus intelligente. Et ceci dit, non, on peut avoir aussi ce même réflexe, entre guillemets, qui semble un petit peu instinctif. Et en réalité, en étudiant un petit peu plus certaines de ces communautés, on s'aperçoit qu'il y a une richesse incroyable au
C'est
niveau
ça.
culturel, des fois. Et qu'effectivement, par exemple, tu vois, je sais pas, on pourrait parler, je sais pas, de la culture, mais de culture dans le sens cultivé, tu vois.
Ouais.
Ou plein de choses comme ça, tu vois, où on se dit, ouais, quelqu'un qui n'est pas capable de cultiver, ou quelqu'un qui n'a pas fait d'élevage, par exemple, qui est resté à la chasse, tu vois, ces célèbres chasseurs-cueilleurs, on se dit, bon, c'est un petit peu le niveau zéro de l'humanité, tu vois.
Alors que pas du tout,
Alors
c'est
qu'en fait, non. Et ça, je
juste
trouve
qu'ils ont
plutôt
peut-être pas besoin de
intéressant.
cultiver parce qu'ils ont tout à portée de main, et qu'ils ont pas à s'embêter à cultiver des trucs où le terrain est pas fait pour. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais du coup, oui, par rapport à ce primitivisme, Le problème, c'est que bah, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est qu'on part toujours de notre référence, de notre culture, et du coup, on compare sur des trucs qui sont pas forcément justes. Par exemple, nous, qui sommes dans des sociétés très technologiques, très voilà, on développe à fond tous ces trucs-là, bah, on a tendance à juger les autres cultures par rapport à ça. Donc, on dit, ouais, nous, on a les ordinateurs portables, lui, il les a pas, donc nous, on est plus fort qu'eux. Mais sur d'autres, si on compare sur d'autres choses, en fait, on pourrait se rendre compte que c'est voilà, eux qui sont plus riches, qui ont un système politique plus complexe ou économique ou social ou au niveau des rites ou de plein de choses quoi. Et c'est juste que bon, déjà de classifier de mettre les sociétés sur une échelle, lui il est meilleur, lui il est bon, c'est pas, ça sert pas à grand chose, mais c'est des réflexes oui qu'on peut avoir quoi. Mais il faut se rappeler qu'on regarde avec nos yeux de notre société et que c'est pas forcément juste quoi. Et c'est ce qui est difficile en anthropologie, c'est de réussir à enlever ce filtre et d'essayer de voir la société de l'autre comme lui, il la voit, quoi.
Ce qui demande justement, comme tu disais, du temps, ouais. D'études, etc., pour comprendre comment ça va. Mm-mm. Ouais, c'est intéressant. Mais du coup, alors, bon, on a fait un petit peu les bases, on reviendra de toute façon au fil des épisodes un petit peu sur des points particuliers. Hein, je propose qu'on passe à la suite. Mm-hmm. Et notamment, là, on est en train de jouer. On va parler du jeu dans un petit moment parce que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a beaucoup de choses intéressantes rien que sur les 10 premiers niveaux de ce jeu-là à propos de l'anthropologie. Mais est-ce que les anthropologues se sont intéressés aux jeux vidéo ?
Alors oui, ils s'intéressent à tout. Ils sont partout. On les voit pas, hein, mais je te jure, ils sont partout. Dans les jeux vidéo, je crois que c'est à peu près depuis les années 90 qu'on s'y met. Bon, pas en France, hein, on s'y est pas mis tout de suite. Mais dans le monde anglo-saxon, ça fait du coup un petit moment. C'est pas encore ultra répandu, hein, c'est pas un grand champ de recherche, mais il y en a de plus en plus parce que bah, les jeunes chercheurs sont de plus en plus des générations voilà, qui sont nées avec des ordinateurs, qui jouent aux jeux vidéo, etc. Et donc qui se rendent compte qu'il y a des choses à faire là-dedans. Parce que bah, ça reste, c'est une pratique humaine déjà, donc c'est forcément lié à l'anthropologie. Et puis y a, c'est très intéressant, enfin, il y a énormément à dire, quoi. C'est comme, enfin, ce sont des mondes parallèles, quoi. Où on crée des sociétés virtuelles, où on met en place nos représentations, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, quand tu disais dans un épisode prochain, on parlera des chamans, etc., bon ben, à partir de l'image, la vision qu'on a des chamans, on va créer des chamans dans cet univers virtuel, et c'est tout comme ça, c'est que les sociétés qu'on crée, les personnages qu'on crée, sont issus de représentations qui sont forcément culturelles, quoi. Donc il y a plein de choses à voir, et puis voir bah, le jeu, quoi, le jeu en lui-même. Le jeu, ça fait un moment que les anthropologues, ils s'intéressent à ça, hein, même. Donc oui, il y a des anthropologues, des jeux vidéo cachés dans des guildes.
Justement, alors, tu nous as dit que ça intéressait à partir du moment où il y avait plusieurs personnes, mais est-ce qu'ils s'intéressent justement plutôt en jeu en réseau comme dans lequel on est actuellement, ou est-ce qu'ils vont aussi sur des jeux solo par exemple s'intéresser à ce qui se passe
C'est possible, parce que mais je pense moins. Je pense que l'intérêt doit être vraiment sur tout ce qui est communautaire, quoi, parce que ça c'est là où ça se rapproche le plus de ce que fait l'anthropologue, quoi. C'est juste que son terrain, au lieu de se déplacer physiquement quelque part, il se connecte à un serveur et après c'est pareil, il y a des gens, ils font des trucs, ils discutent, il se passe des choses, enfin c'est pareil, quoi.
Alors on va en parler la prochaine fois, hein, mais j'ai commencé à lire le bouquin, je vous le mets à la webcam, je sais pas si ça se montrera, mais qui s'appelle My Life as a Night Elf Priest. Mm-hmm. An Anthropological Account of World of Warcraft. Et c'est un livre super génial, en fait, où c'est justement un anthropologue qui s'est dit, tiens, le jeu vidéo l'intéressait pas vraiment, mais il a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui y jouaient, il entendait les gens en parler, etc. Puis il s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que pourrait faire un anthropologue sur World of Warcraft, en l'occurrence. Ouais. C'était il y a quelques années, mais il y avait encore EverQuest, il y avait encore d'autres jeux. Celui-ci, par exemple, celui auquel on joue, n'était pas encore sorti, donc il n'aurait pas pu l'étudier. Ouais. Et il s'est mis un petit peu à étudier plein de choses. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fois, en tant qu'humain, on se dit, tiens, il y a certaines choses qui se passent dans les jeux vidéo qui sont complètement calquées sur la réalité. Mm-hmm. D'autres qui le sont complètement pas, tout simplement parce que la réalité, peut-être, ne nous permet pas de nous trouver dans la même situation. Et je trouvais ça assez fascinant.
Tu penses à quoi quand tu dis ça ?
Ben, on va en parler la prochaine fois, mais par exemple, tout simplement, alors attendez, quelqu'un se met en face de moi. Alors attendez, on
Moi,
élimine
je suis
déjà
en
juste les
train,
gens
ouais.
qui sont là, hein, parce qu'on est en train de jouer en même temps là. Alors, mademoiselle, parce que moi donc je suis la
Je me fais
Jedi que
tirer
vous voyez
dessus.
sauter là-dessus. Monsieur Noz s'en occupe.
Ouais.
Oui, je
Ou
tue.
il va
Merci.
mourir peut-être, on ne sait pas.
Non.
Ce serait pas étonnant non plus.
Ce serait pas étonnant non plus, ce serait pas si grave. Alors,
Oh,
vous voyez donc,
merci.
ce serait pas si grave, c'est-à-dire que tu meurs pas dans la réalité, tu vois.
Ouais,
C'est
ouais.
pour ça que je dis que c'est pas trop grave. Donc le personnage qui est en face de moi, Okasisa, c'est ma chère Anne-Laure. Monsieur Noz arrive, hein, lui il a choisi le même nom. Moi je suis le personnage que vous voyez au milieu. Je vais faire un truc qui s'appelle puissance de force, vous voyez. Alors globalement, on va en parler un petit peu avec Mister Noz, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, on va parler plus de jeux vidéo, mais c'est un truc globalement qui va aider le joueur en face de moi. Simplement, je suis pas obligé de le faire. Et je gagne rien en le faisant. Alors voyez, ben, c'est ce que Monsieur Noz vient de le faire, je peux le faire aussi, clac, on devient tous verts. Pendant 60 minutes, on est un petit peu plus fort. C'est un petit peu ça le truc. Et c'est quelque chose que, en tant que joueur, on a plutôt l'habitude de faire, mais ça fait partie de toutes ces choses que les anthropologues analysent, et moi-même, j'arrive pas à expliquer pourquoi on le fait, en fait. Moi, je crois que je suis arrivé la première fois sur World of Warcraft, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça, comme lui, hein, il le raconte. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi des gens faisaient ça. J'ai vu un truc vert autour de moi, ou rouge, je sais pas, je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un qui m'a lancé une malédiction, je vais mourir, ou j'en sais rien, alors que c'était pour m'aider. Je me suis dit, pourquoi? En plus de ça, t'es même pas obligé de le remercier, hein. Souvent, ils font ça en passant. Et comment ça se fait, en fait? Comment une des questions d'anthropologue, c'est comment est-ce qu'est née une... Je sais pas, est-ce qu'on peut
Ce
appeler ça une
comportement.
culture, un comportement, une
Un
habitude?
comportement.
Je peux te répondre partiellement, hein, si tu veux.
Vas-y.
Alors vas-y.
Alors souvent, c'est ce qu'on appelle des HL qui agissent comme ça. Alors des HL, qu'est-ce que c'est? C'est les joueurs qu'on appelle des haut level. C'est un petit peu de la frime, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire, regardez comment je suis puissant. Par exemple, level 84. Je peux booster qui est un noob, donc un noob, un débutant, peut booster ton personnage. Ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir. L'autre, et c'est aussi le petit côté friendly, sympathique, pour montrer qu'on est gentil, c'est aussi pour se faire aimer et se faire idolâtrer.
Je mettrais juste là en l'occurrence, il me
Bémol.
semble, sauf erreur, que les bénédictions, effectivement, t'en as des suivantes dans les niveaux, mais que globalement, la bénédiction que quelqu'un te donnera sera toujours la même. C'est-à-dire, là par exemple, moi, hein, je suis plus haut niveau que vous, mais c'est exactement la même. C'est-à-dire que comme c'est un pourcentage, tu vois, comme c'est 5%, en réalité, que ce soit un niveau 84 ou un niveau 2 qui te le donne, à part que le niveau 2 l'aura pas nécessairement, ça aura le même résultat pour le personnage que tu fais, si tu veux. Bon,
Sauf que
en
tu
tant que...
parlais, si je peux me permettre,
Vas-y, vas-y.
tu parlais des MMO, donc des jeux massivement multijoueurs en ligne, en
Ouais, alors là,
général, et
attends.
alors pas là forcément sur Star Wars, parce que tu as des MMO, des jeux, où justement, parce que tu es un level 84 ou plus, tes pouvoirs augmentent en même temps que tes niveaux. Donc tu vas pouvoir aider encore plus celui que tu vas bénir.
Ok, alors c'est possible, hein. Je me rappelle plus si c'est le cas sur World of Warcraft, parce que là en l'occurrence le livre est sur World of Warcraft. Comme ça, j'ai envie de te dire je crois pas, mais oh, j'ai failli faire une bêtise. oui, c'est pas facile de jouer et parler en même temps. Mais oui, c'est effectivement une possibilité. Alors ce qui est intéressant avec l'anthropologie justement, c'est qu'il y a... Alors tu vas peut-être me dire le contraire, Andor, mais il me semble qu'il y a jamais une réponse aussi. C'est-à-dire que c'est plutôt un faisceau de possibilités.
Bah, le problème,
Si tu
c'est qu'une
veux.
réponse appelle toujours une autre question, et du coup, c'est un peu généralement, c'est sans fin.
Ouais, voilà, exactement. Mais
Mais
je crois que c'est aussi un truc que tu apprends quand tu commences à t'intéresser à l'anthropologie, c'est qu'il y a. Souvent, on cherche toujours la réponse ou l'explication.
Et
Et
non.
c'est normal, hein, parce que c'est les médias. Hein, les médias, on critique les médias sur tous les podcasts qu'on fait de toute façon, parce qu'on n'aime pas ça globalement. On trouve que c'est... Et les anthropologues, si vous écoutez certains interviews d'anthropodcasts, vous le verrez. Généralement, ils cherchent justement à avoir une réponse à vous donner, parce qu'en avoir trop, c'est trop compliqué, puis c'est trop long, puis personne comprend. Et puis, de toute façon, il faut mettre de la pub pour gagner de l'argent. Alors qu'en réalité, l'anthropologue, il va te dire oui, c'est oui, peut-être que tu as raison, mais en fait, il y a peut-être cet élément que tu n'as
C'est
pas
ça.
remarqué. Puis, enfin, je sais pas.
Bah ouais. C'est Tu peux pas t'arrêter à une réponse. Par exemple, là, voilà, tu vas faire des hypothèses, tu vas pouvoir confirmer des choses de manière empirique en observant, etc. Mais en fait, comme on s'intéresse pas vraiment au pourquoi, mais au comment. Genre pourquoi les gens, voilà, dans les jeux vidéo, ils s'aident, machin, ils se donnent des bénédictions. Tu peux trouver des raisons, parce que dans les mondes sociaux, t'as des trucs comme ça aussi. C'est le riche qui va donner, qui va faire don. Qui va faire des dons d'argent parce qu'il peut le faire, il
Il
va
en
aider
parle
les
dans son
pauvres,
livre d'ailleurs.
etc., machin, enfin, c'est des questions après de privilèges, de notoriété, de pouvoir, il peut y avoir plein d'explications, mais justement, il peut y en avoir un qui le fait pour une raison, un autre qui le fait pour d'autres, et ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau macroscopique, dans quelle logique, dans quelles interactions ça se manifeste, quoi. Pourquoi il y a un mec qui... Pourquoi il y a ce rapport-là qui s'institue, quoi?
Mais du coup, alors comment ça se passe en vrai? Parce que là, on est dans un jeu vidéo. Déjà, on a vu avec Mr. Nose, il a déjà amené un élément que, en l'occurrence, on n'avait pas sur The Old Republic, là, le jeu auquel on est en train de jouer. Mais du coup, comment ça se passe en vrai? Enfin, je sais pas, est-ce que l'anthropologue, il va dans le jeu, il va poser la question au joueur, est-ce qu'il va prendre des notes, il va dire, tiens, monsieur Paul, level 90, m'a fait une bénédiction à 9h40, ensuite, monsieur Jean, m'a fait une bénédiction alors qu'il était seulement niveau 2. Enfin, je veux dire, comment il bosse en vrai sur un jeu vidéo? Enfin, je sais pas si tu le sais d'ailleurs, parce que toi, t'as pas
De
bossé
toute
sur les jeux
façon,
vidéo, je crois.
la méthode en anthropologie, voilà, il y a ce truc de faut faire du terrain, faut noter tes données, parce que si tu notes pas tes données, c'est pas des données. Je veux dire, ce que tu te souviens dans ta tête, que ouais, un jour il y a un mec qui m'a dit ça, c'est pas une donnée. Donc si tu notes pas, si c'est pas répertorié quelque part, ça compte pas. Donc après, au-delà de ça, chacun fait un peu comme il veut. Et en fonction de ton terrain, bah tu vas pas pouvoir. Il n'y a pas une méthode claire, quoi. Faut vraiment le faire au feeling, etc. Mais de base, oui, je pense que de toute manière, bah, il va rentrer dans le jeu, il va se créer un perso, il va commencer à jouer, à voir les interactions qu'il a avec les gens, voir ce qu'il observe et ouais, prendre des notes. Peut-être pas à 9h46, il m'a fait ça, mais par rapport à, ok, aux sessions de tel jour, il s'est passé ça, 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 etc. Et des éléments d'analyse, des hypothèses qui lui viennent par rapport à ce qu'il a pu observer, quoi. Comme il l'aurait fait, je pense que la méthode doit pas changer des masses, quoi. C'est peut-être
Alors.
même juste plus facile pour lui parce que du coup il est caché derrière un avatar. C'est pas l'anthropologue parce que voilà, l'anthropologue qui va arriver, je sais pas, qui veut étudier comment ça se passe, j'en sais rien, dans le ghetto de Détroit, au niveau je sais pas quoi, à un moment il faut qu'il y aille et qu'il arrive à s'intégrer, ce qui est pas forcément évident selon voilà les milieux que tu choisis, quoi. Alors que là, bon, t'arrives, t'es ton perso, on te demande pas si t'es anthropologue ou pas.
Donc
Donc
tu veux dire que l'anthropologue, il dit pas qu'il est anthropologue pendant qu'il est en train de faire de l'anthropologie.
ça dépend. Ça dépend vraiment des contextes. Je pense que des
Ce que
fois,
je
vaut
veux
mieux
dire, par
pas le
exemple, tu
dire.
vois Malinowski au milieu de sa tribu, même s'il
Ah bah
disait
lui,
pas qu'il était
forcément.
anthropologue, ça
Oui,
se voyait
voilà.
un peu comme...
Moi, quand je suis allée au Brésil, personne m'a demandé ce que je faisais là. J'étais en Amazonie, ils étaient là, ah ouais, une Française, mais qu'est-ce que tu fous ici? Mais enfin, c'est cool que tu sois d'ici, tu viens de loin, mais ils m'ont pas demandé, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu vois, ils en avaient rien à faire. Après, t'as des endroits, si tu le dis pas, c'est pas réglo ou c'est pas. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment. Et il y a des endroits, tu peux pas le dire parce que sinon, tu fais pas ta recherche. J'avais un professeur qui étudiait le Tibet. Bon, bah, ces dernières années, quand elle va au Tibet, elle dit pas qu'elle est anthropologue, sinon, on la fait même pas rentrer dans la région, quoi. Donc,
En
après, ça
quoi
veut pas
est-ce...
dire que les gens sur place ne sont pas tous au courant. Il y en a forcément qui sont au courant et d'autres pas, quoi.
Ouais, bon, on imagine que dans des endroits comme ça, les gens qui posent des questions, ce qu'a priori fait un anthropologue, c'est un petit peu gênant, quoi.
Bah oui, parce que bah, t'as des gouvernements ou des instances, après ça peut être des instances religieuses, politiques, qu'importe, qui ont le pouvoir, qui veulent pas qu'on regarde ce qu'ils font, quoi.
Ok. Bah, du coup, je profite un petit peu qu'on parle de jeu, hein, parce que là, on est en train de jouer depuis tout à l'heure. Vous demandez peut-être ce qu'on fait. Alors, on fait pas grand-chose de très intéressant. Hein. Là, on se balade.
Je sais pas où je vais en plus, là.
Elle ne sait pas où elle va. Il faut suivre tes missions, cher ami. Mais bref,
Je crois que c'est
on
par
ne sait
là.
pas trop où on va. On se balade. Mais vous savez peut-être pas exactement ce que c'est un MMO. Hein. Monsieur Noz a dit MMO. Alors, c'est quoi? Vous l'avez peut-être
Qu'est-ce que
entendu à la
c'est?
télé, mais pas prononcé de la même manière. Tu peux nous aiguiller un petit peu là-dessus?
Mais bien sûr. Alors, le MMO, c'est multijoueur massively online, hein, en anglais et en français. C'est donc les jeux en ligne massivement multijoueur, sachant qu'il en existe différentes catégories. Il existe par exemple des RTS, des MMORTS, donc RTS qui signifie Real Time Strategy, donc des jeux de stratégie en temps réel, donc ils sont aussi multijoueurs, mais il peut y avoir aussi des MMORPG qui vont nous proposer d'évoluer dans un univers plus médiéval fantastique et qui est beaucoup plus proche, le RPG, du jeu de rôle.
Là, on est dans un RPG, puis on est sur Star Wars, non?
Voilà, donc ça peut se mêler.
Du jeu de rôle, en fait, ouais.
Ouais,
c'est plutôt
voilà.
C'est pas lié à l'univers, c'est du jeu de rôle, donc où on joue un personnage. Alors justement, je sais pas si vraiment tu connais bien les MMO, si tu y as déjà joué, de toute façon, à d'autres, pas celui-là, mais à d'autres.
Il y en a certains auxquels j'ai joué plus longtemps. J'avais joué à Nostal, qui est un jeu qui est très très simple pour débuter, très kawaii, donc assez mignon en japonais. Assez simple, c'est de là que je te tirais l'expérience de où j'avais un personnage qui était assez élevé et je faisais partie des gens qui balançaient des bénédictions aussi aux jeunes joueurs, pour dire qu'on est sympa, hein. Moi ça a été mon objectif pour ajouter ce que pour faire suite à ce que disait Anor. Et toi mon objectif principal c'était d'aider les autres, tout simplement parce que j'avais été des fois à leur place et c'est toujours bienvenu quand quelqu'un t'aide et te permet d'évoluer, quoi.
On en parlera plus quand on parlera de World of Warcraft, hein, aussi. C'est tout des petites choses quand on a joué à plusieurs MMO, on trouve ça plutôt logique et en réalité c'est pas si logique que ça, en fait. C'est des comportements qui sont un petit peu spéciaux. Mais du coup, quand tu dis massivement, c'est quoi, genre? Là, on est trois, c'est massif
Ah non. Alors, on est trois dans le groupe. Après, combien, en fait, c'est en fonction des serveurs. Alors, faut savoir que les MMO, les jeux en ligne, ils vont pouvoir héberger plusieurs serveurs. Et franchement, les serveurs vont aussi avoir certaines capacités d'accueil. Donc, si on parle... on peut se retrouver sur un serveur privé entre 2-3 copains, donc là on n'est pas dans le massif. Par contre, si tu joues à Minecraft et tu vas sur des serveurs comme Hypixel ou d'autres, tu peux te retrouver à 5000, 8000 sur un serveur commun, sachant qu'après tu vas avoir différents lieux où tu vas pouvoir partager des parties avec 20, 36 joueurs, etc. Donc il y a des sous-zones, des sous-catégories aussi dans les serveurs, mais ça peut accueillir énormément, des milliers de personnes.
Ok, ouais. En l'occurrence là par exemple sur Titon, hein, on est 53, ce qui est une planète de départ, hein, donc c'est pas très étonnant qu'on soit pas beaucoup. Si on va sur la flotte tout à l'heure, on verra qu'on sera beaucoup plus. D'accord, alors voilà, on a le massivement multijoueur. Je sais pas si tu le sais, je l'ai sorti sur Wikipédia, mais je trouvais intéressant la définition un petit peu de jeu massivement multijoueur. Il y a trois points qui sont importants. L'univers n'est accessible que par un réseau. Donc il faut savoir que sur un jeu comme celui-ci, par exemple, si vous n'êtes pas connecté à Internet, c'est tout simplement pas possible d'y accéder. L'univers, il est persistant, c'est-à-dire qu'il existe tout le temps, que des joueurs y soient connectés ou non. Ça peut être plus ou moins vrai en fonction des jeux, mais globalement, quand vous n'êtes pas connecté au jeu, il y a des gens qui continuent à y jouer. Parfois, le monde se modifie, ce qui n'est pas le cas quand on joue à un jeu solo. Quand on joue à un jeu solo, quand vous arrêtez, ça se stoppe exactement à l'endroit, et tant que vous y jouez pas, ça ne bouge pas du tout. Et ensuite, l'univers est accessible à un très grand nombre de joueurs simultanément, ce que tu as dit, donc le massif qui peut être plus ou moins massif. Ouais, c'est intéressant, t'as parlé, il y a MMO FPS aussi, hein, mais ça
oui,
par
oui,
contre...
Oui. Plus du Call of Duty,
Alors Call of Duty, en l'occurrence, c'est pas du MMO, hein, dans le sens où c'est pas un univers persistant, donc ça, il y a un des trois points qui tient pas, je crois. Mais bon, après... Est-ce qu'on part dans une querelle de gamers? Petite note faite après l'enregistrement pour préciser la chose pour tout le monde, Call of Duty n'est effectivement pas du tout un MMO. J'avais pas trop envie de contredire mon ami Mister Nose quand on était en enregistrement, mais pour s'assurer que tout le monde comprenne et de ne pas propager des informations erronées ni de nous faire taper dessus par les haters, Call of Duty est un FPS, est un first person shooter, un jeu de tir à la première personne, et n'est donc pas du tout un MMO. Il y aura peut-être un jour un MMO Call of Duty, j'en doute beaucoup, mais en l'occurrence, ce n'est pas du tout un MMO. Voilà pour la précision. On continue. Et on peut citer, par exemple, quand tu parles de MMORTS, est-ce qu'on peut mettre Space Origin dedans? Je
Ah
crois, hein.
bah évidemment,
Ouais, voilà.
évidemment, MMO, RTS, c'est le jeu, c'est une belle illustration par excellence, on peut le garder.
Ah, c'est bon, j'ai l'autorisation de la garder, c'est parfait. On vous parlera de Space Origin surtout la prochaine fois, je crois. Mais c'est un jeu massivement, justement, multijoueur,
Très social.
auquel vous pouvez jouer gratuitement. D'ailleurs, tu as fait des vidéos dessus, hein, si jamais vous
On
voulez
a
savoir à quoi ça
fait une
ressemble.
vidéo aussi ensemble dessus, hein. C'est un prémisse un petit peu à Anthropogame, il faut le dire.
Ouais, oui, bah oui, à quelque part, oui, exactement. Donc si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, et là en l'occurrence sur l'univers dans lequel on est avec Mister Nose, en tout sur l'univers qui disparaît, je sais plus, je crois qu'il y a 7 ou 8 planètes, on est à peu près 10 000 ou 10 400, quelque chose comme ça.
Ouais, on est dans ces zones-là, la dernière fois que j'ai regardé, c'était ça.
Voilà, exactement. Où là, l'aspect MMO est pas comme ici, c'est-à-dire c'est un jeu qu'on voit de haut, etc. J'essaierai de vous mettre un petit exemple. C'est un petit peu différent, mais là aussi, on est plusieurs et les interactions entre les joueurs sont quelque chose de très important dans le jeu. Tout comme ici, en fait, où vous voyez, on est à plusieurs, donc on peut s'entraider, ça va beaucoup plus vite. Ok, donc voilà pour ça. Le jeu sur lequel on est, je crois que tu ne le connais pas.
Non, pas du tout.
Ok.
Et j'aurais voulu quand même ajouter
Vas-y.
un petit plus, c'est que quel est l'intérêt de faire du MMO? C'est que au niveau de l'entraide, nos personnages vont évoluer plus vite et nos quêtes vont être plus faciles à faire à plusieurs. Donc tout est basé quand même soit sur l'entraide, donc la coopération, soit après sur le conflit. Dans la majeure partie du temps, vaut mieux quand on fait partie d'une même guilde, d'une même équipe, s'entraider plutôt que de chercher à se faire la guerre. Même si le fait de se faire la guerre, ça a aussi ses intérêts en fonction du jeu auquel on joue.
Exactement, ouais. Alors là, on va parler sur l'anthropologie un petit peu du jeu en lui-même, mais avant, pour que vous ayez quelques petits renseignements, Star Wars, on joue à Star Wars The Old Republic, qui est un jeu gratuit en free-to-play, hein, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des trucs encore si vous avez envie, mais là, pour l'instant, nous, on n'a rien acheté, par exemple. Ça a été édité par BioWare, non, ça a été fait par BioWare et édité par LucasArts, hein, ce qui est plutôt normal pour un jeu Star Wars. Il est sorti en décembre 2011, j'ai joué en décembre 2011. C'était un jeu qui était vraiment sympa parce qu'il est très très scénarisé, par contre qui avait des gros problèmes de endgame. C'est quoi le endgame, monsieur Noz?
Alors le endgame, franchement, il va falloir que tu m'illustres un petit peu là-dessus. Moi, je dirais endgame, fin de jeu. Donc, je sais pas si c'était des fins alternatives qui étaient proposées.
Non, parce que le jeu en l'occurrence, c'est un petit peu la caractéristique cool des MMO, c'est qu'ils sont jamais fini World of Warcraft, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en train
Oui.
de le faire, et si tu veux, il y a à chaque fois des nouvelles extensions avec des nouveaux méchants, des nouveaux gentils, des nouvelles armes, etc. Mais globalement, ce qu'on est en train de faire ici, pour ceux qui connaissent pas, c'est du leveling. C'est-à-dire qu'on est parti avec des personnages qui étaient level 1, qui étaient tout faibles, avec du mauvais équipement, et on va arriver, je crois, si on paye pas, on va arriver jusqu'au niveau 50 ou 55, je me rappelle plus. Et puis ensuite, c'est là que commence le endgame, c'est-à-dire c'est le moment où ton personnage ne peut plus évoluer au niveau de level. Par contre, il peut évoluer au niveau armure, armes, équipement, si tu veux. Et pour avoir ce meilleur équipement, généralement, il y a ce qu'on appelle des raids, par exemple, qui sont des moments justement où l'entraide elle est absolument capitale, où vous pouvez être 5, non je crois pas 5, ici je me rappelle plus vraiment, ça fait longtemps que j'ai plus joué au endgame d'ici, mais ça peut aller jusqu'à 25 joueurs qui jouent en même temps avec des rôles extrêmement bien définis, où au début en tout cas il faut vraiment faire aucune erreur, et c'est ce qu'on appelle le endgame. Et généralement donc les joueurs, il y en a qui font ce qu'on appelle du rush, c'est-à-dire qui essayent d'atteindre le level maximum le plus rapidement possible, pour commencer à faire le endgame qui est jugé souvent beaucoup plus intéressant que le leveling. Hein. Parce que globalement, dans le leveling, vous êtes tout seul et vous tapez vos cochons sur World of Warcraft ou vos créatures bizarres ici sur SWTOR. Par contre, quand on est à 25, c'est carrément un autre jeu et avec sa hiérarchie, etc. On l'étudiera aussi quand on regardera World of Warcraft. Et c'est ça le endgame. Donc au début, quand le jeu est sorti, il y avait un endgame qui n'était pas terrible. Et ce qui fait qu'il a perdu beaucoup d'abonnés et qu'il est passé en free-to-play ensuite. pour ceux qui connaissent le monde de Star Wars, j'espère qu'il y en a, ce jeu se situe 3500 ans avant le premier Star Wars, 300 ans après Star Wars Knights of the Old Republic, qui était un RPG, qui n'était pas MMO, donc qui se jouait en solo, qui était un très 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 bon jeu vidéo. Alors...
Alors attends, juste, vas-y. Si je peux me permettre,
tu peux utiliser
des termes comme endgame. Le endgame, en fait, si on voulait traduire ça en français, c'est peut-être pour ça que je t'ai pas tout réagi tout de suite. C'est ce que tu appelles peut-être la durée de vie du jeu.
C'est-à-dire jusqu'où c'est tu lié peux à la durée de vie.
Ton personnage et après, tu peux bon, c'est-à-dire le stuffer, lui amener du stuff, donc du matériel, de l'équipement. Et exactement. Autre chose, parce qu'il y a un terme, tu parles de leveling, moi aussi j'utilise ce terme, mais apparemment... ça rentre aussi dans la catégorie farming, c'est-à-dire qu'on farme, on va farmer des ennemis, on va en tuer un maximum pour pouvoir avoir des points d'expérience, pour pouvoir augmenter les caractéristiques de notre personnage, voire notre personnage lui-même.
Là aussi, une petite précision est nécessaire. Monsieur Noz, ne connaissant pas réellement les MMO, je l'ai questionné un peu sans me renseigner et sans qu'on étudie ça ensemble. En réalité, le farming va beaucoup plus loin que le leveling, c'est-à-dire que là on vous a dit que globalement c'était tuer les mêmes monstres éternellement pour augmenter le niveau de son personnage, voire d'avoir de l'équipement. En réalité, si on veut être un petit peu plus technique, et c'est ce qu'on essaye d'être, d'être un peu plus juste aussi, on peut dire qu'on farme, notamment sur World of Warcraft, des donjons, c'est-à-dire des choses qui se font à plusieurs, qui sont un petit peu plus compliquées, mais qu'on farme aussi ou pour avoir du niveau en plus, ou alors pour avoir du matériel en plus, généralement ensuite pour aller en raid, et là ça va se passer en deux phases essentielles. La première qui sera des phases de try, c'est-à-dire que les joueurs ne connaissant pas les caractéristiques des monstres qui sont à tuer, généralement il faut mettre en place une stratégie, et le temps de faire cette stratégie, on essaie, on meurt, on essaie, on meurt, en essayant de survivre chaque fois le plus longtemps, jusqu'à pouvoir down le boss, c'est-à-dire le tuer, pour avoir justement cet équipement-là. Et en réalité, durant toute cette phase, qui peut durer quelques jours, quelques semaines, si c'est un boss de raid, de fin de raid par exemple, pour ceux qui ne savent pas, ça peut aller jusqu'à 450, 500 fois d'essai avant de pouvoir tomber un boss, justement, d'avoir la bonne stratégie. Une fois qu'on a passé cette phase de try, généralement il y a une petite phase d'affinage qui consiste à vérifier que la stratégie fonctionne réellement et que tous les membres du raid, qui peuvent être jusqu'à 25 personnes en l'occurrence maintenant sur World of Warcraft, c'était un peu plus avant, puissent vraiment être certains de la stratégie à adopter. Et puis une fois qu'on a fini cette phase d'affinage, on rentre là aussi de nouveau dans une phase de farming de nouveau, puisqu'on connaît ce qui va se passer, on sait très bien, on connaît toutes les phases du boss, chacun sait à quelle place il doit être et ce qu'il doit faire, on a les timers qui sont bien faits, ce qui fait qu'on est dans une phase de farming de nouveau. Généralement, on meurt beaucoup moins et on tue les boss un à un jusqu'au moment où tout son raid, où toutes les personnes qui font partie de la guilde, etc., ont tout le matériel disponible, et là aussi ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut être notamment pour préparer un futur raid où il faut déjà avoir un bon équipement de base pour pouvoir y aller. Bref, le farming dans un MMO peut avoir plusieurs phases, être entrecoupé d'autres phases aussi, c'était juste pour vous donner une idée un petit peu plus claire j'espère, mais en tout cas beaucoup plus complète de ce terme. Les jeux vidéo, comme beaucoup de choses, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense une fois qu'on s'y intéresse un tout petit peu. C'était ma petite précision sur la chose. On continue. Exactement, ouais, exactement. C'est tout à fait bien dit. Ce que je vous propose, je vous ai préparé une petite surprise parce que justement pour lier le monde de l'anthropologie à celui de Star Wars, et il est extrêmement lié, et avant qu'on parle de ce jeu, je vais vous passer une petite vidéo. Alors en l'occurrence, vous avez que l'audio et on verra si vous reconnaissez le mec qui parle. Pour ceux qui ont la vidéo, désolé, parce que du coup, vous allez tout de suite voir qui c'est, vous allez tout de suite le reconnaître.
Fermez les yeux.
Et vous verrez le lien qu'il y a entre Joseph Campbell, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le héros aux mille visages », dont on va reparler quand on parlera de mythes sur Anthropogames. On va écouter ce que quelqu'un raconte sur Joseph Campbell, et vous allez voir le lien tout de suite avec Star Wars.
Alors Campbell, en deux mots, c'est un spécialiste lui aussi des histoires, mais pas orienté film ou industrie. C'est un universitaire, en fait, enfin, c'est bien plus que ça, c'est un auteur, mais il a abordé les contes et légendes et traditions orales de tous les pays, toutes les civilisations du monde. Et il a essayé de mélanger tout ça et de regarder quel était le point commun entre toutes les histoires fausses qu'on se raconte dans le monde entier depuis la nuit des temps. Et du coup, de là, d'en tirer des sortes de règles. C'est-à-dire qu'on remarque que ce soit dans n'importe quel continent et à n'importe quelle époque, dans les histoires qu'on raconte aux enfants, eh ben, il y a un point commun. Il y a des choses qui sont censées faire appel à la source de ce pourquoi on a besoin d'entendre des fausses histoires. L'origine du fait qu'on ait besoin d'entendre des choses fictionnées, qui sont de l'ordre, certainement. Ça nous enseigne quelque chose de vivre une aventure par procuration à travers un héros fictif. Et je parle vraiment de. Ça peut aller du conte pour tout jeunes enfants, avec un prince, avec un petit villageois qui va abattre un méchant de l'autre côté de la rivière, jusqu'au truc beaucoup plus complexe. Mais en fait, toutes les histoires. Et Campbell s'est chargé de démontrer ça à force de grandes thèses, et c'est très beau d'ailleurs. Campbell s'est chargé de démontrer que toutes les histoires contiennent la base d'une histoire, c'est-à-dire elles ont tout un point commun. Campbell, pour la petite parenthèse, c'est le type qui a été emmerdé Lucas avant d'écrire Star Wars, et Star Wars 1 en tout cas, est la démonstration pure de Campbell.
Donc voilà, vous avez regardé cette vidéo. Alors bon ben ça n'a pas marché le son par Skype, donc du coup du coup vous savez qui c'est, hein, c'est Alexandre Astier qui raconte un petit peu ces 6 vidéos que je vous mettrai en lien quelque part, qui sont très intéressantes à regarder si vous vous intéressez un petit peu à la façon de faire des scénarios et à la façon de raconter des histoires, puisque Astier est très très bon là-dedans, je crois qu'on sera tous d'accord. Et ce qui est super intéressant en fait, c'est que ce gars, donc Joseph Campbell, qui a écrit dans les années 60 ou 70, je crois, donc un livre qui s'appelle, je l'ai dit, Le héros aux 1000 visages, qui essaye de comparer toutes les histoires qu'il y a eues et d'essayer de deviner quel est le squelette que toutes respectent. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas fini, vous pouvez le trouver en PDF relativement facilement sur Internet, hein, je crois que c'est plus ou moins légal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il compare à la fois les rêves qu'ont les gens, les rêves qu'on fait pendant la nuit, il compare les religions, qu'il compare comme les mythes, hein, et il compare justement les mythes. Il compare toutes ces histoires et il essaye de voir s'il n'y a pas des choses qui sont communes. Et on va dire que il a fait une théorie qui s'appelle la théorie du monomythe, et qui est, comme Alexandre Astier l'a dit, absolument bien démontré dans Star Wars. Globalement, si on aime tous Star Wars, surtout le premier, qu'on a tous envie d'être Luke Skywalker, même si c'est pas forcément le meilleur héros qui existait, eh ben c'est parce que le monomythe est tout à fait respecté, que ça nous parle. On en parlera quand on parlera des mythes et des légendes aussi liées aux jeux vidéo, parce qu'il y en a énormément dans les jeux vidéo. Mais je trouvais intéressant, et justement, ce qui est marrant, c'est que Joseph Campbell, eh ben il était anthropologue. Donc vous voyez, anthropologue, Star Wars, mythe, tout se rejoint, on est parfaitement dedans.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. Alors justement, là on est sur le jeu, pourquoi est-ce qu'on a joué à ce jeu? Alors c'est pas seulement à cause du monomythe de Campbell, mais c'est parce qu'en jouant aux 10 premiers niveaux sur cette planète qui s'appelle Titon, j'ai remarqué plusieurs choses qui sont clairement de l'anthropologie, mais quand on y joue, alors bon, déjà les joueurs de MMO, hein, ils ont souvent l'habitude de cliquer un petit peu rapidement pour aller vite au plus haut niveau, hein, donc ça les intéresse pas trop ce qui est raconté souvent, mais si on suit l'histoire, il y a des anthropologues là où on est exactement à peu près. Par exemple, on nous parle de matriarche. Alors matriarche, dans la tête de tous les gens, c'est globalement une femme qui gouverne. Est-ce que j'ai raison de simplifier ça à ce point, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Je ne
sais pas.
On peut toujours aller plus dans le détail, mais ouais, t'as cette idée de matriarcat ou patriarcat, donc avec le pouvoir entre les mains de la femme ou entre les mains de l'homme.
Comme chez les éléphants?
Ouais.
D'accord.
Mais du coup, Actuellement, chez les sociétés humaines, il y a beaucoup plus de sociétés patriarcales, il reste très peu de sociétés matriarcales, mais en fonction des contextes, ça peut s'inverser rapidement. Par exemple, si il y a bon, maintenant, les guerres, elles sont différentes, mais... Mettons, il y a une grosse guerre, tous les hommes partent à la guerre, bon bah la société sur place elle est gérée par les femmes, et du coup c'est les femmes qui. Ce genre de choses.
Ça peut être du matriarcat temporaire en fait.
Ouais, après temporaire, ça peut du coup rester s'installer.
Non, mais tous morts à la guerre, quoi, c'est
non,
ça.
Mais ils peuvent revenir après, mais du coup, bah, c'est les femmes qui détiennent, enfin, qui gèrent tout, quoi.
Qui détiennent le pouvoir. Ah là là, quelle horreur, Mister Nose.
Mais il y en a
très
peu.
Ça ne se passera jamais sur Anthropodcast.
Je sais qu'il y en a en Chine. Ouais.
Moi, ça me rappelle une histoire. Tu parlais de chamanisme tout à l'heure. Et alors, après, moi, je parle sous le contrôle des anthropologues, mais j'ai ouï dire qu'à l'âge préhistorique, alors là, lequel passe, c'est les crocs. Les Néandertaliens, les Homo sapiens, je ne vais pas pouvoir le dater, mais j'ai toujours entendu parler que à l'aube de l'humanité, les femmes étaient souvent chefs de tribu, voire chamanes. Mm-hmm. Et la raison s'explique, c'est qu'à l'époque, les hommes ne faisaient pas le rapport de la naissance, donc de la femme qui donnait la vie. Ils considéraient les femmes comme des êtres magiques, mm-hmm. parce qu'elles donnaient la vie, donc ils les craignaient. Elles étaient souvent chef de tribu, parce que c'est elle qui dirigeait les nomades d'un point à l'autre. Alors après, est-ce que j'ai raison? J'en sais rien, mais j'ai déjà entendu parler de cette histoire.
Ouais, bah c'est souvent en fait justement comme les femmes, voilà, elles ont, avant qu'on sache exactement comment on concevait des enfants, etc., tout ce qu'on voyait, c'est que les enfants, ils sortaient du ventre des femmes, quoi. Donc c'est les femmes qui avaient symboliquement le pouvoir de vie. Et du coup, ouais, c'est ce qui leur donnait. Or, dans certaines sociétés, du coup, c'est elles qui avaient le pouvoir, et c'est elles qui dominaient. Et t'as d'autres sociétés où, au contraire, du coup, les hommes avaient un espèce de sentiment d'infériorité du fait de ne pas détenir le pouvoir de vie, et du coup, avaient une domination encore plus forte sur les femmes pour essayer de contrebalancer et dire « Ouais, non, mais attends, moi aussi, je suis indispensable, et machin, quoi. » Mais à la base de la base... Il y a cette idée, ouais, que la femme, elle a un truc particulier qui lui donne un certain pouvoir magique, quoi. Donc, ouais. D'où le chamanisme, etc., quoi. Mais encore une fois, ça a pris plein de formes, et même chez les Néandertaliens, il devait y avoir différentes petites tribus qui voyaient le truc différemment, quoi.
D'accord, je remercie.
C'est vrai.
Donc, effectivement, quand on parle de matriarcat, on est sur les liens de parenté.
Mm-hmm.
Et c'est aussi quelque chose qui est beaucoup étudié chez les anthropologues, non?
Ouais, surtout au début, on était à fond là-dedans. Maintenant
juste,
aussi.
Mademoiselle mais... Okasisa, est-ce que tu peux bouger?
J'ai fini mes missions, moi, je sais pas où aller là.
Essaye d'aller dans une autre zone où je sais pas, tu vas pas rester là pendant
une
demi-heure.
Mais j'étais en train
pendant...
de regarder ma carte et tout.
Il faut que tu regardes ta carte, on peut aller vers les vestiges de la force, mais je sais pas
c'est
si
où,
c'est
ça
ouvert. C'est tout en bas de ta carte. On peut aller dans les ruines de Calette aussi. Normalement, tu devrais aller dans les ruines de Calette, là où on en est. Excusez-nous, hein, okay. Mais on est en train de jouer en même temps, et puis elle reste comme ça au spatioport pendant une demi-heure. Là.
Mais c'est sympa.
C'est marrant, ça.
du coup, je sais plus ce que tu me disais là par rapport...
Oui, alors justement que c'était de l'anthropologie, le fait de parler exactement de la parenté, et que c'était quelque chose qui intéressait beaucoup les anthropologues, justement.
Bah,
parce
ouais.
que...
C'est
et
la base...
Notamment... C'est... Alors, c'est...
c'est la base.
C'est la base. Est-ce que Monsieur Bourdieu, il a dit la même chose?
Oh, j'en sais rien, il a dit beaucoup de choses.
C'est pas lui qui a dit un truc, genre, que nous, on étudiait... Que les anthropologues, ils étudiaient beaucoup trop la parenté, puis qu'en fait, c'était pas du tout ce qu'il y avait d'intéressant. Oula, nouvelle parenthèse, cette fois-ci c'est moi qui fais une erreur, ce n'est pas Bourdieu qui a écrit là-dessus, c'est ce que j'avais en tête, c'était le livre de Maurice Godelier, Au fondement des sociétés humaines, et c'est pour ça qu'Anne-Laure capte pas vraiment où je veux aller, parce que je me suis gouré de personnes et gouré de livres. Je suis donc tout à fait désolé pour cette erreur de ma part, j'essaierai de parler moins la prochaine fois pour dire moins de bêtises. Suite.
Ouais, il est sociologue, alors forcément, il n'était pas d'accord. Après, il a dit beaucoup de choses.
Vous voyez, donc, c'est typiquement les trucs où il y en a qui disent oui, c'est le système économique qui est super important, le reste, c'est du freestyle. D'autres qui disent bah non, c'est la parenté.
Mais disons que la base de la société, c'est la famille, quoi. À la base, tu fais des enfants.
On a souvent dit que si la famille ne tient pas, effectivement, la société ne tient pas.
Ouais. La société, elle prend. Après, il n'y a pas que la société, que la famille, mais. Mais concrètement, on fait des enfants, on a des pères, des mères. Alors après, des fois, on considère que c'est l'oncle, le père, et toutes les femmes de la tribu ou de la société, c'est des mères, ok. Mais il y a toujours cette idée de famille qui est intrinsèque aux sociétés. Donc forcément, à un moment, il faut l'étudier pour voir, parce qu'on découvre plein de trucs super, super intéressants et qui expliquent beaucoup de choses, quoi. Après, voilà, maintenant, ça dépend ce que tu étudies, parce que maintenant, on n'est plus trop dans cette idée de, on va dans un endroit et on veut tout, on espère tout connaître de la société qui est là et machin.
Puis on l'a beaucoup fait
Maintenant,
aussi.
ouais, mais après, on pourrait le faire encore si on avait encore cette vision un peu de, une fois que c'est fait, on a, bah, c'est plus à faire. Mais maintenant, on sait que de toute façon, ça change tout le temps, etc. Mais c'est surtout que maintenant, on étudie des trucs, on est un peu plus ciblé, quoi. Avant, c'était les monographies, donc c'est voilà, on prenait une société, et on dit alors, comment marche la famille ici? Comment ça marche l'économie? Comment ça marche les politiques? Quels rites ils ont? Et on essayait de faire un gros truc le plus exhaustif possible. On faisait un bouquin de 600 ou 800 pages, et puis on était content. Maintenant, on va dire, bon, je veux étudier le... Je sais pas, le rituel, le gnawa au Maroc, à tel moment, dans tel contexte. Enfin, c'est des trucs plus souvent plus particuliers, quoi. Et après, on essaye
Ok.
d'appréhender la société par rapport à ce point-là, parce qu'on va voir que bah, le rituel qu'on a étudié, il a des enjeux politiques, des enjeux économiques, etc. Mais on n'est plus à...
Alors, vous remarquez la capacité assez étonnante à mes deux compagnons de jeu qui arrivent à toujours choisir
Superbe.
à aller dans des cul-de-sac et en plus de ça, toujours les mêmes.
C'est vrai qu'on est allé plein de fois dans celui-là.
Quel
Crois
talent! Quel
que
talent!
c'est
Mais
tu
un
veux pas
talent alors.
m'emmener dans le super endroit que t'as dit là,
Et le
les...
pire, c'est que je suis absolument certain que vous ne faites pas exprès. Alors du coup, vous allez me suivre. Hein.
Ouais, viens, amène-nous, t'as dit un endroit sympa tout à l'heure.
On va au truc de la force, mais je ne sais pas si on va
Ouais, le
pouvoir y
truc de
aller.
la force.
Voilà. Mais bref, vous voyez, hein,
Ah, on fait ce
bon,
qu'on
on
peut,
s'amuse, hein, on
hein.
fait ce qu'on peut.
Je
Voilà,
suis
exactement.
anthropologue, pas de...
Elle est
C'est mon premier
anthropologue.
terrain, d'ailleurs, c'est un peu violent comme terrain. Mais
C'est un peu violent comme terrain, mais
ouais,
je t'en
d'habitude, je
proposais
fracasse
un
pas
autre
les
de
gens, mais...
terrain. Bref, donc, nous disions. Alors ça, par exemple, le fait, rien fait, vous voyez comme ça matriarche dans un jeu vidéo, vous dites, ouais, bon, voilà, c'est une info, vous l'avez oubliée aussi rapidement que vous l'avez vue, alors qu'en réalité, il y a des gens qui sont capables d'étudier pendant des années comment tout ça fonctionne, et qu'en réalité, c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Alors un autre truc qu'on voit aussi, et qui est plutôt un grand classique dans Star Wars, hein, c'est tout ce qu'il y a comme cérémonie. Il y en a une par exemple que vous n'avez pas encore faite, et je crois, sauf erreur, que dans ce jeu vidéo, c'est une des premières fois où vous pouvez le vivre en direct en réalité. C'est la cérémonie de la construction de l'arbre, de l'arme, c'est-à-dire du sabre laser en tant que Jedi, hein, qui est quelque chose d'important, qui est autant mythique que technologique. Et ça, par exemple, aussi, c'est toutes des choses que les anthropologues trouveraient peut-être intéressantes. Et il y a d'autres cérémonies aussi,
On en a
notamment dans les
fait une,
endroits où on
je sais
passe.
plus comment. On a allumé des flambeaux quand on faisait
Et
des
ouais, là
tests.
c'était alors là c'était un rite de passage par
Ouais,
exemple.
c'était un. Ouais, bah c'est une cérémonie.
Mais c'est une cérémonie aussi, mais qui est tout plein de choses que les anthropologues trouvent intéressant. Et ce qui est très intéressant, alors là par exemple c'est l'exemple que tu prends hein, qui est plus loin dans la carte, donc on va pas y retourner. Mais il y a un moment où on doit faire quelque chose pour être accepté des gens, on va dire, tout simplement.
Alors qu'on est des étrangers, et ça c'est rare.
Alors qu'on est des étrangers, d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu du racisme dans Star Wars, c'est très intéressant aussi, parce que Star Wars, c'est un sujet assez incroyable, hein, si... Je suis un fan de Star Wars, si vous le saviez pas. Hein. Mais je crois que ça se sait et que ça s'entend. Enfin bref, je vous parlais de cérémonie. Ce qui est très intéressant, par contre, et il me semble que les anthropologues, c'est ce qu'ils font aussi, c'est de comparer les rites de passage, par exemple, un petit peu dans tous les endroits. Alors par exemple, il y en a un qui est plutôt connu, qui est celui du passage à l'âge adulte, par exemple, qui est, je sais pas, est-ce qu'il est différent ou est-ce qu'il a la même chose dans toutes les sociétés
Ah bah non, il est différent à chaque fois. Il y a même des sociétés où on ne le fait plus chez nous, il est plus très conscient, hein, le rite de passage.
De service militaire, non?
Ouais, bah en France en tout cas on l'a plus, donc même celui-là, on l'a un peu... Ce qui fait qu'on a des adolescents qui ont des fois 35 ans ou 40 ans.
Oh là là, le troll. Qui joue à des jeux vidéo en plus.
Et qui joue à des jeux vidéo. Non mais non, à chaque fois c'est totalement différent hein, d'une société à l'autre. Même de... Enfin ouais. C'est toujours différent. Et même dans une même société, à deux moments différents, c'est déjà autre chose, même si le rite a l'air d'être pareil, c'est jamais pareil. Dès que c'est pas les mêmes individus, déjà ça change, enfin ça change tout le temps.
Raison.
Ok, ben ça par exemple, voilà, c'est des choses que vous pouvez voir dans Star Wars. Il y en a beaucoup de ces cérémonies. Alors, est-ce que étudier une cérémonie de Star Wars, c'est quelque chose qu'un anthropologue ferait?
Bah, ce qui est intéressant dans le fait d'étudier une cérémonie Star Wars, c'est de voir la représentation des concepteurs du jeu quant à la cérémonie qu'ils ont créée. C'est pas la cérémonie en elle-même, parce que la cérémonie en elle-même, elle n'existe pas. Mais la manière dont on l'a mise en place, ça signifie des choses.
C'est-à-dire, je sais pas, les mecs, ils ont... D'ailleurs, c'est un truc, je suis persuadé, même si...
Où est-ce qu'ils ont trouvé leur source? Est-ce qu'ils ont fait appel à leur imaginaire? Est-ce qu'ils ont fait appel à des bouquins? De quoi ils se sont inspirés? Ça dénote une vision des sociétés humaines, quoi. Donc c'est là que c'est intéressant. Donc ça, on apprend plus sur... ça, on apprend sur les gens qui ont fait le jeu, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, on a... On va pas parler de la femme dans les jeux vidéo parce qu'on va repartir pour 3 heures, mais c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment au dernier E3 par exemple, hein, alors tiens, l'E3, ça c'est un truc, je suis sûr que les anthropologues connaissent pas. C'est quoi l'E3, Mister Nose ?
L'E3, c'est, on va dire, que c'est une exhibition durant laquelle toutes les plateformes qui font du jeu vidéo, donc Nintendo, Sony, etc., présentent des jeux à sortir pour le courant de l'année. Si on peut résumer les choses vite fait comme ça.
Okay.
Voire même beaucoup plus loin. Il y a des jeux qui sont annoncés. En l'occurrence, je crois que Shenmue, par exemple, il est annoncé pour 2017 et ils vont certainement être en retard, hein, ce qui est plutôt habituel dans les jeux vidéo. Donc c'est très loin. Mais c'est exactement ça. Hein, c'est là où tous ceux qui aiment vraiment les jeux vidéo sont capables de regarder des lives de 3 heures voir une petite vidéo de 30 secondes qui va leur donner envie d'acheter un truc qui sortira dans 4 ans. C'est assez fabuleux. Hein.
C'est souvent des cinématiques. Hein. Donc des fois, c'est bien édulcoré pour nous faire rêver.
On nous vend du rêve, ouais. Mais on continue. Et je crois que le joueur, c'est un rêveur quand même, hein, franchement.
Ah, mais clairement. Après, c'est...
D'ailleurs, regardez cette magnifique
aussi,
cascade.
Télisme,
Regardez l'endroit où je vous emmène. Il y a des petites fleurs.
Ça me plaît,
il y a une cascade. Il y a une grotte. C'est quand même beau. Hein. Bref.
Oui,
c'est pour rigoler, mais voilà. Cérémonie, on parle de guérisseurs aussi sur cette planète. On parle de chamans. Il y a des chamans ici. Hein. Ils sont un peu plus en avant et ils sont pas très gentils.
Oh, ils
mais
sont pas gentils.
Il y a des chamans.
Qu'est-ce que c'est cette représentation des chamans?
Et c'est juste que. Après, ça va vous spoiler le truc, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Il y a les règles des Jedi qui sont aussi.
C'est peut-être juste qu'ils sont pas gentils avec nous, parce que de notre point de vue ethnocentrique, ils sont pas gentils. Parce que nous, on est des Jedi.
Figure-toi que c'est. Tout à fait ça.
Oui,
d'ailleurs, il y a un des mecs devant lesquels tu étais avant qui était en robe là.
Mm-hmm.
Alors attends, suis-je dans le bon coin? Tout d'un coup, j'ai un doute.
Ce serait bien parce que j'ai lancé un combat là.
Ok, j'arrive.
Oui, tu vas probablement te faire éclater parce qu'ici, ici, ils sont plus puissants. Bref. Oui, alors justement. La question, là, vous avez vu, on est passé par plein d'endroits. Alors là aussi, c'est un truc intéressant à étudier dans les jeux vidéo, mais qu'on fera pas cette fois. On est passé dans un endroit qui était primitif, on est d'accord. Hein. Il y avait tout du primitif, c'est-à-dire de la représentation du primitif. Mmh. Il y avait des ossements, on est sur le bon chemin, donc on peut suivre. Il y avait des ossements, hein, donc ça fait un petit peu sacrifice humain, des méchants, machin. Il y avait des totems, on est passé devant, on s'est pas arrêté, mais il y avait des totems de chair, hein, voilà, pour bien accentuer le truc dégueu. Des esclavagistes un petit peu, des vilains qui nous attaquent quand on passe d'ailleurs.
Alors,
et figurez-vous que ce qui se passe sur cette planète, c'est qu'il y a des Twi'lek, hein, c'est les bonhommes verts qu'on a vus tout à l'heure, là, avec des espèces de tresses rasta, vert, je sais pas.
Tentaculaire, ouais.
Un petit peu tentaculaire, voilà, c'est plus juste que rasta, je pense. qui sont venus sur la planète un petit peu sans autorisation de la République. Nous, on est des Jedi, donc on est des gentils, normalement. Et puis, simplement, on ne doit pas s'ingérer dans les problèmes politiques, enfin bref. Et puis, il y a ces déchiqueteurs hein, qui sont les êtres qui étaient là sur la planète avant que tout le monde arrive. Et puis, bien sûr, c'est un classique, hein, ça ne va pas très fort, les relations entre les gens. Et puis, comme on ne se comprend pas... On se tape dessus. Ah, voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est pas calqué sur la réalité, hein, mais c'est pas si loin que ça. Et figurez-vous que votre rôle, en tout cas en tant que Jedi, celui que j'ai joué là, ça va être justement d'aller étudier un petit peu ce qui se passe. Donc bon, ça reste du MMO, hein, donc vous n'allez pas passer 6 mois à questionner les déchiqueteurs pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hein. Mais globalement, vous allez essayer de savoir pourquoi est-ce qu'ils se battent, qu'est-ce qui se passe, et puis vous allez remarquer, alors attention, spoiler, qu'en fait c'est un méchant Jedi qui se cache derrière les déchiqueteurs et qui les influence en mal. Donc en réalité, l'indigène, il n'était pas méchant, il était tout gentil, mais il avait quelqu'un de mauvais qui l'influençait.
Il s'est fait avoir par un vilain anthropologue.
Exactement, ah là là, quelle histoire, quelle histoire. Non mais, enfin, bref, c'est intéressant. intéressant parce qu'en réalité, dans la plupart des jeux vidéo, même si ça a tendance peut-être à changer, le méchant, c'est un petit peu le primitif. Souvent, on le désingue très rapidement, hein, comme on le fait là. Hein, vous voyez, de toute façon, ils sont pas réellement méchants. Ouais, voilà quoi. Alors qu'en réalité, c'est juste des pauvres créatures qui se sont fait influencer en mal. Et il y a notamment un point très intéressant. Je me suis demandé si ça s'était passé en vrai dans l'anthropologie. Alors, il y a justement un de ces déchiqueteurs, là. Fais attention où tu vas, ma chère, hein, parce qu'ils peuvent t'éclater rapidement. Il y a donc un de ces méchants qui kidnappe un Twi'lek pour... Et pour quoi faire ? Pour le bouffer ? Non. Pour le tuer ? Non. Pour le sacrifier à ses idoles ? Non plus. Il le capture pour qu'il puisse lui expliquer, enfin, plutôt lui apprendre la langue. Donc en l'occurrence, la langue des Jedi, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais là c'est le français, pour lui apprendre le français, pour qu'il puisse faire la demande de devenir Jedi.
Ok.
Je me suis demandé, est-ce que dans l'histoire de l'anthropologie, on a déjà, ou l'histoire tout court, est-ce qu'on a déjà eu des communautés, etc., qui kidnappent les gens pour apprendre la langue qu'ils apprennent ? Posez la question.
Ça a dû exister, hein.
Parce qu'a priori, tu vois, je veux dire, les mecs, ils veulent apprendre une langue.
Je sais que dans le sens inverse, on laissait des gamins dans les tribus, etc. Genre en Amérique, tout ça. On laissait des gamins et puis on revenait, je sais pas, 10 ans après, une fois qu'ils faisaient partie de la tribu pour qu'ils puissent faire l'intermédiaire.
Attends, réexplique ton truc. C'était qui allait dans la tribu de qui ?
Des colons. Genre les colons, ils arrivent, ils prennent un gamin qui a, je sais pas, 7 ans, tu vois, qui parle l'espagnol, le portugais ou l'anglais, je ne sais quoi. Et il te l'abandonne dans une tribu, donc du coup, lui, il vit dans la tribu pendant 10 ans, et puis une fois qu'il parle les deux langues, les colons, ils reviennent, et du coup, ils ont un interprète.
Les colons faisaient ça avec leurs gosses ?
Bah, peut-être pas les leurs, ceux d'un pauvre à qui... toujours la même, hein.
Sympa. Tiens, toi, tu vas aller chez eux, mais je comprends rien, ouais, ça fait rien, tu vas y aller quand même.
C'était bien les 2 mois sur le bateau, hein. T'es bien malade ?
Ah ouais, bon, mais c'était sympa.
Ça a dû se faire dans l'autre sens, quoi.
Dans l'autre sens, oui, par exemple, au Québec, hein, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire du Québec et notamment, enfin, en l'occurrence, ouais, est-ce que c'était déjà le Québec ? Je ne me rappelle plus. Mais bref, en tout cas, des gens qu'il y avait là-bas, ça n'a pas été très, très cool. Ils ont pris des gens, des tribus qu'il y avait autour. Hein, je sais jamais. D'ailleurs, ça, c'est un truc, honnêtement, même quand on fait entre podcasts depuis un moment, je ne sais jamais comment on appelle les gens pour être respectueux. Est-ce que, parce qu'on ne peut pas les appeler,
hein,
des primitifs ?
Non.
Il y a beaucoup, parce que ça, c'est clairement une mauvaise connotation. Hein. On peut... Indigène, moi je trouve que ça fait indigène, ça fait un petit peu dans les marsupilamis, les mecs avec les...
Ouais, indigène, c'est tout.
Sauf que la définition vraie, enfin moi je le connais via les plantes, la définition vraiment d'indigène, c'est qui appartient au pays dans lequel il vit. Hein.
Ouais.
Donc normalement, c'est censé
être indigène,
juste...
sauf qu'on a, on le raisonne comme quelque chose de péjoratif, mais au sens littéral du terme, c'est ce qu'il y a de plus juste.
Sauf que, ouais, mais après, t'as l'indigène et l'indigène, parce que dans cette idée d'indigène, c'est comme l'autochtone, t'as un peu l'idée que c'est les mecs qui vivaient là avant tout le monde, etc., mais il y a peut-être quelques siècles, ces mecs-là, c'est ceux qui avaient chassé, ceux qui vivaient là avant eux, et nanani, nanana, et finalement, t'as jamais vraiment d'indigène, quoi, enfin...
L'indigène est toujours le colon de quelqu'un d'autre.
Ouais,
en fait.
C'est un peu ça, quoi. Donc c'est vrai que la terminologie est un peu compliquée, tout ce qui est... Après maintenant, indigènes, autochtones, c'est des noms que des communautés prennent pour se revendiquer. Donc, parce que maintenant que t'as les peuples autochtones qui ont une... comment on appelle ça ? C'est pas une loge ? À l'ONU, là ? Enfin bref. Ils sont reconnus en tant que tels, bah, maintenant ils peuvent se revendiquer en tant que peuples autochtones, etc. Donc c'est des termes qui reviennent vachement en politique. Mais ouais, c'est pas le mieux, ça. Moi, j'aime bien utiliser communauté, parce que communauté, c'est juste cette idée de voilà, c'est des gens qui vivent ensemble. Quand c'est plus vaste, société.
J'essaie d'utiliser ça aussi, mais ça fait toujours un petit peu bizarre en fait, parce que communauté, ça reste. Tu vois, je sais pas si tu parles, je sais pas moi, des Indiens d'une région, mais qui sont dispersés en plusieurs communautés justement. Quand tu parles d'une communauté, tu peux pas parler d'eux dans le sens général, quoi.
Normalement, c'est difficile de parler en général.
c'est hyper compliqué. J'étais aux États-Unis, hein, donc et au Canada cet hiver, et j'ai vu qu'à certains endroits, ils utilisent le terme de True Blood.
True Blood.
Qui fait beaucoup penser à la série de vampires pour nous tous, hein, je crois. Mais dans le sens où, voilà, c'était, je sais pas, genre. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils utilisent ça. Il y a beaucoup de problèmes dans les musées, notamment hein, à ce niveau-là. Il y a beaucoup le terme de premier peuple qui sort.
Ça veut rien dire, ça.
Premier peuple.
Ça, c'est
Ah, ça
juste pour
veut.
avoir des... Ça veut rien dire, premier
Bah,
peuple.
je trouve que c'est joli, mais
Oui,
à
c'est
part ça
beau.
ne
Non,
veut
mais
rien
c'est
dire.
beau, c'est beau.
Tu vois, par exemple,
C'est...
le premier peuple de Suisse, honnêtement, tu vois déjà que la Suisse n'existait pas il y a 200 ans. Bon, c'est un petit peu
Premier
compliqué à
peuple,
dire,
enfin,
quoi.
qui, on sait jamais, le premier mec qui est arrivé quelque part, enfin, et puis, faut pas oublier que pendant longtemps, on n'était pas sédentaire, quoi, donc il y en a eu des gens qui sont passés avant qu'il y en ait un qui disent, ok, c'est bon, je m'installe ici et je fais des cultures. Et ça,
C'est
c'était il y
ça.
a de longues, alors on est très loin de ça, hein, c'est.
Et puis on peut même dire que les premiers peuples, la plupart, ils sont disparus, entre guillemets, ou
Mais
ils ont
oui,
évolué, tu
bien
vois,
sûr,
enfin
ça
évolué
veut
dans le
rien dire.
sens où
C'est
ils ont
juste,
été intégrés à d'autres, quoi.
c'est un fantasme, on aime bien. On aime bien
Ah,
ça, quoi. Et
parce que
puis
c'est
ça.
très joli, puis ça
Bah oui,
fait.
c'est beau, ça fait rêver, tu t'imagines.
Ouais.
Oh, t'imagines, les gars, ils sont là depuis des milliers d'années, ils vivent là et tout. Son grand-père et son arrière-arrière-arrière-grand-père, il était déjà là et tout. Ouais, bah ouais. C'est beau, ça fait vendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit contre eux ou pour eux.
Mais c'est pas vraiment
Mais c'est
ça
pas
non plus, quoi.
scientifiquement très juste, quoi. Alors.
Enfin bref, voilà, c'est juste une petite incartade, mais pour vous dire qu'il y a. Et puis derrière tous ces mots et tout ça, il y a quand même des vraies questions politiques actuelles, encore une fois,
Ah bah
hein,
clairement.
tu l'as précisé avec les autochtones. Fais attention, lui, il est vraiment méchant.
Mister No, j'attends ça. Oh,
Ah
ah
oui,
ouais, il m'a fait trop
oulô.
mal. Je m'attendais pas à ça.
Oui, parce que c'est une sorte de boss ou un truc comme ça. Bref. Que disais-je? Oui, justement, au Canada, ce qu'on apprend, notamment un truc plutôt intéressant, c'est que y a encore pas si longtemps que ça, finalement, c'est que on allait prendre justement des gens qui étaient dans certaines communautés pour les obliger de force à aller à l'école pour apprendre ou le français ou l'anglais et les acculturer, si c'est
C'est ça.
possible d'utiliser ce terme.
Ouais.
Voilà, enfin bref, c'est des grandes questions et là aussi je trouve que c'est hyper intéressant de savoir comment ça s'est passé au point de vue
Ça se passe encore,
anthropologique.
hein.
Ça se passe encore effectivement, c'est des choses qu'il faut pas oublier à mon avis. Et bref, par exemple, ça c'est un truc assez rigolo qui se passe dans Star Wars. D'ailleurs, petite note sur Star Wars et le racisme tout de même, par rapport à ce kidnappement, etc. La petite histoire que je vous ai racontée avant, enfin Jedi non. Star Wars est intéressant au niveau du racisme parce que si vous voyez, il y a beaucoup de races aliens. Dans Star Wars 7, il y a même quelqu'un qui est noir, oh là là, qui est un Stormtrooper. Vous imaginez? Non, mais l'air de rien, on rigole comme ça, mais tapez Star Wars racisme et vous verrez le nombre d'articles qui ont été écrits sur oh là là, il y a un noir. Alors c'est parce que certains captent pas tellement l'histoire de Star Wars, donc voilà. Mais c'est aussi un truc dans les jeux vidéo ou dans les univers qui est intéressant. Je pense que c'est un point intéressant à étudier. Là aussi, c'est peut-être de l'anthropologie, en fait, de voir un petit peu comment notre société allait, que ce soit par rapport
Et
aux
comment elle
places de
se
la femme
représente?
dans la société ou la place de ça. On en avait parlé quand on avait parlé de la planète des singes, par exemple,
Ouais.
de un petit peu toute cette vision, j'ose pas dire américaine, mais un petit peu quand
Un peu
même,
quand même,
de ce qui est. De ce qui est primitif, hein,
ouais.
clairement. C'est-à-dire un primitif, il y aura toujours un chaman, ils feront toujours des danses bizarres, ils feront toujours des chants. On peut citer Avatar aussi, hein, qui y a
Clairement,
une
ouais.
vision un petit peu voilà, étriquée finalement de ce que c'est le primitif, qui nous vend du rêve aussi, parce que ça nous fait kiffer des gens qui aiment les arbres.
Eh oui, parce que ça,
Alors que
on aime
bon.
vachement moins si on nous dit qu'ils veulent sauver leur terre et couper quelques arbres pour se faire de l'argent, ça nous plaît pas trop.
C'est ça. Donc comme quoi, il y a beaucoup de choses intéressantes à étudier dans l'anthropologie. Je crois qu'on a déjà duré assez longtemps. Hein. Je ne
On n'est
sais pas
pas prêt.
combien. Voilà, je pense que ça doit faire 1 heure et demie avec les coupures, etc. Donc on va en arrêter là. J'espère qu'on vous a bien fait envie de parler d'anthropologie avec nous. Et celui-là, il était plutôt généraliste. Dans le prochain, on parlera vraiment, je vous le redis encore, notamment ce bouquin d'anthropologie sur World of Warcraft. On a aussi tiré des articles qui sont très intéressants. On est tout à fait conscient qu'en tant que joueur, c'est pas que vous lisez pas, mais c'est qu'on est tous les mêmes. On voit tout d'un coup un article hyper intéressant et puis on dit, ah tiens, celui-là, je vais le lire un jour. Et en fait, on ne lit jamais. Ou alors on se dit, tiens, il y a un mec qui a écrit un livre sur World of Warcraft. Ouais, ça doit être génial. Puis en fait, on ne le commande jamais. Alors nous, ce qu'on fait, et ça va être une partie de notre job, ça va être d'acheter ses livres et de lire ses articles pour vous en parler en vidéo, ce qui est un format plutôt sympathique, plutôt internet, vous voyez. Vous pouvez nous écouter en audio aussi, bien sûr, parce que vous pouvez le faire si vous le préférez. Peut-être pour conclure, avant le prochain épisode, j'aimerais juste vous parler d'une petite trouvaille que j'ai faite, qui n'est pas une trouvaille extraordinaire, parce que c'est un livre, donc finalement tout le monde peut l'acheter, mais c'est un magazine qui s'appelle Icar. Je vous le mets à la webcam, oui, c'est magnifique. Et figurez-vous que c'est hyper intéressant, en fait, parce que ce que j'aime pas, c'est quand on traite le jeu vidéo comme un sport de gamin, de geek devant leur ordinateur, même si en l'occurrence là, on est trois un samedi soir devant notre ordinateur. Donc, je sais pas si on obéit aux statistiques ou pas, mais quoi qu'il en soit, qui prend les joueurs pour des gens intelligents et leur parle intelligemment de problèmes intelligents. Par exemple, là, il parle d'un jeu qui s'appelle Spec Ops, The Line, qui est une sorte de... Je crois que c'est dans la série Call of Duty. Je sais pas si tu y as joué, toi, Monsieur Noz.
Non, pas plus que ça, non.
Eh ben, figure-toi que si tu lisais Icar, t'aurais envie d'y jouer, parce qu'il raconte à la fois le développement d'un jeu vidéo, ce qui est très intéressant, parce que nous, en tant que joueurs, on a l'habitude de râler « ce jeu est mauvais, ce jeu est sorti trop tard, trop tôt, ça n'a pas été fait, etc. » Et on se pose rarement la question de comment ça s'est vraiment passé. En l'occurrence, il a été discuté avec des développeurs qui racontent honnêtement comment ça s'est passé. En l'occurrence, c'est un jeu qui a pas du tout marché, qui s'est bien cassé la gueule. Et il raconte aussi un petit peu... comment ça s'est passé, le design narratif du jeu vidéo. Et il y a notamment une partie intéressante que j'ai pas encore lue, mais qui doit être intéressante, où il a fait jouer un soldat américain à ce jeu-là, donc qui est un jeu de tir qui se situe en l'occurrence à Dubaï, qui a des problématiques très très fortes, qui mériterait une analyse justement bien complète. Et figurez-vous qu'il a été faire jouer un vrai soldat qui a vraiment été se battre en Afghanistan, sauf erreur. Il lui a fait jouer à ce jeu et lui a demandé quelles étaient ses sensations en comparant la guerre dans le jeu vidéo et la guerre qu'il a vécue lui. Et vraiment très très intéressant. Ça coûte 16€ avec les frais de port, donc c'est pas très cher. Ça sort tous les deux ans. Ça s'appelle Icar. J'ai commandé le dernier épisode qui est celui-là justement sur Space Hop. Et je crois que je vais me commander sur lui, sur Deus Ex, parce qu'une fois, il faudra qu'on parle quand même d'humains augmentés, etc. Donc je suis sûr qu'il y aura des choses intéressantes dessus, et qu'on aura des choses intéressantes à dire, parce que autant vous le dire, en tout cas, M. Sono, je t'ai jamais demandé, mais t'aimes la science-fiction ou pas ?
J'adore la science-fiction, même.
T'aurais répondu non, tu aurais été viré tout de suite. Hein,
ah non, mais je me doute, mais je peux te parler de L'Homme devenu d'ailleurs de David Bowie, que des films assez kitsch des années 50, que du dernier Interstellar, puis tous les films de super-héros qui rentrent dans la catégorie science-fiction. J'adore ça, 2001, l'Odyssée de l'espace. Allez, hop. Je me tais maintenant.
Il nous a fait du name-dropping, là, c'est bon, on a de quoi faire. Non, on va vous en parler aussi. Le but, c'est toujours de vous montrer aussi les jeux vidéo d'une façon intelligente, en tout cas, on l'espère, avec des gens très intelligents qui ont fait des superbes études que personne ne lit. Hein, ce qui se passe beaucoup, quand même, en anthropologie, je sais pas si on ose le dire. Mais...
ouais, mais eux, s'éclatent, au moins.
Ah ben oui, alors ça, on va le dire, hein. J'ai rencontré, dernière petite histoire avant de clôturer, j'étais à Washington, il fallait que je le place parce que ça fait classe, dans un truc d'anthropologue, hein, voilà, où il y avait que des anthropologues, et il y a un mec qui présentait, je me demande si c'est d'ailleurs pas, j'ai pas vérifié, mais si c'est pas l'auteur de ce bouquin-là, il présentait une planche sur World of Warcraft, et puis on se met à discuter, puis il me disait, oui, tu vois, le boulot c'est pas très compliqué, hein. Moi je me levais, j'allais me loguer, j'allais faire un petit peu de farming, le soir je disais à ma femme, oh, écoute, désolé, je dois aller bosser, puis il allait faire du raid. Franchement, financé par son université et tout, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait anthropologue, pourquoi j'ai fait mécanicien? Tu te poses la même question, enfin toi t'es pas mécanicien, mais monsieur Noz, hein. Tu vois, on aurait dû faire anthropologue.
Moi j'ai fait dans jardinier, mais ça m'a permis d'apprendre aussi pas mal de choses. Et de toute façon, je veux dire, il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Exactement.
Je le dirais jamais assez souvent, mais tout ce qui s'apprend est intéressant, et quand c'est intéressant, il faut t'intéresser.
Exactement. Et puis le podcast ou les vidéos, hein, c'est le cas maintenant sur YouTube, il y a quand même pas mal de chaînes intéressantes au niveau des sciences par exemple, peut-être un petit peu moins au niveau des sciences sociales, c'est pour ça qu'on essaye de combler ce vide. Au niveau podcast audio, il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Noz, quoi, qu'il faudrait peut-être qu'on se fasse un podcast, une vidéo spéciale sur plantes versus zombies, tu vois, puis tu me
oh
dire
là
un
là,
petit peu quelles sont les plantes qui sont utilisées, quel est le rapport entre elles, tu vois, est-ce que la gestion du soleil est bien mise, je sais pas.
Je pense que c'est non.
Tu ne peux... Est-ce
ouais,
que tu as fait
pas.
Une étude sur ce
non,
jeu?
Non, non, mais faudrait
donc,
qu'on s'y penche, pourquoi pas.
Tu ne peux
ah,
pas répondre. Voilà.
Les réponses, c'est souvent je ne sais pas quand on ne sait pas plutôt que de chercher une interprétation, c'est sûr.
C'est pas faux. D'ailleurs, tu sais que tu peux jouer à Plantes versus Zombies dans World of Warcraft? Si, si.
Ah, bah tu me montreras ça.
C'est très très loin, mais il faudrait peut-être que je trouve le coin. Je crois que c'est en Orphandre, mais bon, bref. Donc, du coup, nous on se dit, alors ça va être difficile de se dire dans combien de temps, ce sera probablement d'ici un mois, si la technique a fonctionné et si on a réussi à lire tous les articles qu'il fallait lire pour un prochain épisode. Donc on se dit à dans à peu près un mois, c'est-à-dire plus ou moins 6 mois, plutôt plus 6 mois que moins 6 mois, parce que je peux pas sortir les épisodes il y a 6 mois. Et bah merci d'avoir participé à ce premier épisode avec moi, c'était très sympathique.
Ouais.
On a bien galéré sur la technique, j'espère que ça a fonctionné. Merci Monsieur Noz, on se retrouve sur ta chaîne qui publie à peu près 4 vidéos par jour.
À peu près, voilà.
À peu près ça, voilà. Qui sera bien sûr en lien dessous. Et puis avec toi, ben on se retrouve, avec toi, Anne-Laure, on se retrouve sur AnthropoQuiz, AnthropoCast, AnthropoGames, on ne sait pas. Mais de toute façon, on est toujours ensemble à faire du podcast. Merci d'avoir participé.
Merci à toi.
De rien.
À la prochaine, merci à tous.
Bye.